voilà, je suis pas très dépaysé avec la rosette parce que moi j'ai grandi à la campagne aussi, mais en Bretagne où il y a de la cochonaille partout. Et c'est vrai, oui, il y en a même un peu trop. Les élevages de porcs, ça met du nitrate dans les eaux et dans les nappes phréatiques. Mais c'est avec grand plaisir que je suis arrivé ici. C'est une région que je connais bien. Je viens souvent en Bourgogne, pas dans ce coin précis, mais la Bourgogne est grande et je suis venu dans plusieurs coins de Bourgogne régulièrement. Et ouais, faut monter un petit peu le son. Voilà, merci. Et oui, plusieurs coins, plusieurs des départements de la Bourgogne. J'en adore les breuvages. Et en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est les paysages ici. Et c'est vrai qu'en prenant le train tout à l'heure, il faisait une journée magnifique. Il y avait le soleil. Je m'étais mis sur le côté droit dans le sens de la marche, là, pendant les 2 heures de train depuis Paris. Et donc, j'avais le soleil qui arrivait à la vitre. En cette saison-ci, il est bien agréable. Et j'ai vu les paysages évoluer. Là, on a traversé la Seine-et-Marne, puis un peu dans le Loiret, etc. Et quand je suis arrivé en Bourgogne, tout de suite, j'ai senti l'âme de cette terre. C'est-à-dire que tout d'un coup, ça devient vallonné légèrement. Il y a des bosquets, il y a de l'élevage. La vache se charolise. Et ça sent bon, une région que j'aime énormément. Et c'est une région à arpenter, à pied ou à bicyclette, à randonner. Oui, j'aime bien. J'en fais pas souvent, la randonnée. Oui, quand j'aurai plus de temps. Hier, j'ai fait une randonnée avec quelques amis. On a marché pendant à peu près 6 heures. Très agréable, sous le soleil, comme ça. On était assez nombreux, on était environ 300 000. Et le sol était un peu dur entre la Bastille, la République et l'Opéra. Et j'ai rencontré plusieurs personnes, parce que ça, c'est formidable. Il y a 300 000 personnes et on rencontre des gens qu'on connaît. Et j'ai rencontré en particulier une musicienne que je connais bien, une musicienne instrumentiste, qui n'est pas très connue, mais que je connais bien. Et on parlait justement de ces histoires d'Internet. Et elle me disait que les chiffres officiels venaient de paraître concernant la baisse des ventes de CD, de disques, pour l'année 2008. Ce qui nous fait, quand on fait le total, bon, moins 15% à nouveau, ce qui nous fait, depuis 6 ans, moins 60%. C'est énorme. C'est énorme. C'est un marché qui s'effondre, le marché du disque. Rassurez-vous, les maisons de disques ont d'autres cordes à leur arc, mais elles souffrent quand même terriblement. Et les marchés du DVD, hein, qui concernent donc les films, c'est moins un tiers pratiquement depuis 4 ans. Donc c'est un phénomène tangible. Je veux dire que ce n'est pas un fantasme. Il y a effectivement effondrement de pans entiers de l'industrie culturelle. C'est l'industrie culturelle, c'est ce qui fait la référence culturelle de 90% des gens. Parce que l'industrie culturelle, c'est aussi bien les films qu'on va voir, les musiques qu'on écoute, les séries télévisées ou les émissions qu'on a à la télévision. Et quand on n'a pas la chance d'avoir un endroit comme ici, à Corbigny, où on peut faire culture ensemble dans un moment partagé, une des seules références que la plus grande partie de la population d'un pays comme celui-ci, mais c'est vrai partout aujourd'hui, a, d'un point de vue culturel, c'est la télévision et ce que les industries culturelles émettent essentiellement par les médias de masse. Bon. Donc il y a là un effondrement, et c'est un effondrement qui va beaucoup plus loin que ces chiffres en fait. Parce que c'est toute une logique qui est en train de s'effondrer. Toute une façon de faire fonctionner une économie de la culture qui est en train de s'effondrer. Vous savez, quand on achète un disque, si je reprends l'exemple du CD, bon, on achète une unité de CD et en échange, on verse une certaine somme d'argent. C'est-à-dire qu'il y a une vente à l'unité contre un prix. Et c'est possible parce que le nombre de CD disponibles à un moment donné pour un artiste donné est limité. Il n'est pas rare. Si par exemple, madame, nous avons envie d'acheter le même CD, que nous rentrons dans une boutique qui vend des disques et qu'il n'existe plus qu'un seul exemplaire de ce disque dans cette boutique, évidemment, par galanterie, je vous le laisserai, mais je serai frustré. Je devrais attendre, après avoir commandé, quelque temps pour l'avoir. Et puis s'il est épuisé, je ne l'aurai pas. Donc il y a rareté. Et c'est précisément parce qu'il y a rareté qu'un prix est possible. Avec Internet, c'est fini. En un seul clic, vous pouvez envoyer 5 exemplaires d'une œuvre que ce soit un film, que ce soit un disque, des titres, que ce soit des textes aussi, bien sûr. Vous pouvez en un clic envoyer 5 exemplaires. En un clic, vous pouvez envoyer 500, 5000, 50 000, 500 000 exemplaires. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rareté. Il n'y a plus de coût supplémentaire pour la diffusion de centaines de milliers d'unités supplémentaires d'une œuvre. L'économie de marché ne peut plus fonctionner. Elle continue à fonctionner parce qu'on achète toujours des disques, moi aussi d'ailleurs, hein, pour des histoires de confort, de qualité d'écoute, etc. Mais on va vers des qualités d'écoute parce qu'il sera téléchargé sur Internet qui seront équivalentes à ce qu'on a sur un CD. Et les jeunes générations ont déjà compris, et je pense que d'ici à 20, même pas 10 ans, quand ces jeunes générations qui ont aujourd'hui entre 15 et 25 ans auront elles-mêmes eu des enfants, etc., vous imaginez la démultiplier. Et ces pratiques de se procurer des œuvres par l'intermédiaire d'Internet se seront généralisées. Et évidemment, c'est toute une économie qui se trouvera en grande difficulté. Alors, pour vous faire une petite image, je vais retourner du côté de ma Bretagne et vous parler du phare, hein, le phare côtier qu'il est le phare, si vous voulez. Que vous ayez 5 bateaux qui croisent au large, ou 10 bateaux, ou 15 bateaux, il n'est pas nécessaire de construire des petits phares à côté du grand phare pour faire bénéficier de ce service d'autres consommateurs de ce service. On est exactement dans le même cas, c'est-à-dire que on ne peut plus appliquer une tarification par le marché. C'est un bien public. C'est un bien commun. Ce qui veut dire en fait que les biens culturels auraient vocation à devenir des biens communs, qui ne peuvent plus être échangés contre un prix, mais système dans lequel les auteurs, les créateurs, les producteurs, car il en faut, ne pourraient plus être rémunérés que par des systèmes de mutualisation, sur lesquels on va revenir un peu plus tard. Donc, vous imaginez que derrière ça, il y a des angoisses extrêmement fortes de ce qu'on appelle les majors. Les majors, ce sont les grandes compagnies comme Disney, Sony, etc., des grandes compagnies multinationales qui produisent et diffusent des biens culturels dans le monde entier. Et ils s'inquiètent pour au moins 3 raisons. La première, c'est qu'ils vont perdre des profits substantiels. Moins 60% sur le marché du disque en France, c'est substantiel. La deuxième raison, c'est que ces grandes multinationales de la communication qui vendent des produits culturels dans le monde entier, qui constituent des références essentielles pour des cerveaux du monde entier. Parce que vous prenez par exemple Dallas, qu'on a bien connu à une époque. Dallas a été vu aux États-Unis, en Europe, au Sénégal, en Suède, en Corée du Sud, etc. C'est-à-dire sur le monde entier. Donc ce sont des profits substantiels, certes, pour l'industrie qui fabrique et vend des produits comme ça. Mais c'est aussi un mode de conditionnement des esprits. Parce qu'il y a des valeurs qui sont portées par ces séries télévisées. De la même façon que le grand cinéma commercial ou que le contenu des chansons ou des titres musicaux qui circulent à grande échelle, ils ne sont pas neutres. Il y a une forme de conditionnement des esprits. Et pour être un peu clair et logique, les multinationales de la communication qui diffusent à grande échelle ces produits font en sorte que les valeurs qui sont contenues dans ces produits ne soient pas en opposition avec les valeurs qui les font si bien vivre, pour parler un peu simplement. D'accord ? Donc là, il y a vraiment un élément, je dirais presque idéologique, qui est en jeu. Donc on a dit économique, conditionnement des esprits qui se dérobe. Et troisième élément qui va même très très loin et qui donne des sueurs froides actuellement dans les hautes sphères du capitalisme international, c'est que ce qui concerne la culture concerne aussi toute l'industrie de l'informatique. Il existe des logiciels libres qui viennent concurrencer les logiciels fabriqués par Microsoft et d'autres. Vous avez peut-être entendu parler de Linux, hein, qui est un système d'exploitation. Bien, Linux, c'est quoi ? C'est en fait un système qui a été mis au point par des centaines de milliers d'informaticiens à travers le monde qui travaillent en réseau, de manière collaborative, et qui sont capables, dans un acte gratuit, bénévole, ce sont des gens qui ont un boulot par ailleurs, qui sont rémunérés par ailleurs, sont salariés, souvent dans des entreprises informatiques d'ailleurs, et qui sont capables, comme ça, de manière collaborative à travers la planète, d'améliorer sans cesse un système d'exploitation qui s'avère être aujourd'hui nettement supérieur, je ne suis pas informaticien, mais c'est ce que me disent les informaticiens, à ce que 200 ou, je sais pas moi, peut-être 600 ingénieurs informatiques mis en batterie dans un hangar de Microsoft, je veux dire qu'il y a une qualité, si vous voulez, collaborative à très grande échelle qui s'avère être supérieure dans un acte bénévole à ce que sont capables de produire des gens qui travaillent en étant payés pour Microsoft. Donc on se rend compte à travers la culture, à travers les logiciels libres, et peut-être demain, dans des domaines où la propriété intellectuelle est également très importante, comme la pharmacie, les industries pharmaceutiques ont peur que les découvertes qui sont faites dans des laboratoires, qui sont protégées par des lois de propriété intellectuelle, bien entendu, mais ne se diffusent comme ça par le biais de cet immense outil qui balaye la planète entière qu'est Internet. Et d'ailleurs, des pays du Sud aujourd'hui, qui n'ont pas les moyens de se payer les médicaments à prix fort, regardez par exemple ce qui se passe en Afrique du Sud avec la maladie du sida, ils demandent à avoir une réduction du temps pendant lequel la propriété intellectuelle joue pour pouvoir bénéficier à bas coût de découvertes scientifiques qui pourraient profiter à l'humanité tout entière rapidement. Donc, même chose pour les semences. Enfin, je pense que vous êtes au courant de ces choses-là. Il existe des réseaux d'échange de semences traditionnelles qui se font de façon mutualisée et qui sont complètement aux antipodes de ce que Monsanto cherche à faire de son côté. Donc on voit que tout ce qui repose sur la propriété intellectuelle, et ça va loin, ça balaye des secteurs où la recherche est très importante, des secteurs où, justement, nous avons probablement le cœur du développement économique des pays développés aujourd'hui. Parce qu'on fabrique de moins en moins de produits industriels qui sont délocalisés vers d'autres contrées, en tout cas dans le système qui est le nôtre aujourd'hui. Je ne dis pas que c'est un bien, mais c'est comme ça. Et nous, on compte énormément sur ces secteurs nouveaux de pointe qui reposent sur des découvertes de propriété intellectuelle. Mais attention, si Internet se met à favoriser la remise en cause de la propriété intellectuelle, c'est l'avenir même du capitalisme dans les pays développés qui se trouve déstabilisé. Donc vous voyez que derrière la question de la musique, qui a été souvent évoquée dans les médias, il y a énormément de strates dans les raisonnements qui sont à conduire et qui génère une violence dans la riposte des entreprises multinationales de la communication qui est à la mesure de ces enjeux. Quand une personne, aujourd'hui décédée, Jack Valenti, dit, alors je vous présente juste très rapidement le personnage, ce monsieur très cultivé et intéressant, a été le défenseur des grandes industries du cinéma américain dans toutes les négociations internationales pendant de longues années. Sur l'exception culturelle, etc., au moment des accords du GATT, puis de l'OMC, enfin bref. Jack Valenti a dit « Notre lutte contre le piratage, c'est notre combat à nous contre le terrorisme. » Bon, ça paraît disproportionné, mais en fait, ça ne l'est pas. Parce que l'enjeu est tel que la violence de la riposte est à la mesure de ce type de langage. Et en fait, on s'aperçoit, on commence à s'apercevoir que le système capitaliste qui s'est développé, comme on le sait, à partir de la Renaissance, mais surtout à partir de la Révolution industrielle dans sa phase moderne, est un système qui s'est accompagné d'un développement de la démocratie, grosso modo. On ne peut pas le nier. Je veux dire qu'il y a des grosses verrues là-dessus, comme le colonialisme, comme le fascisme, le nazisme, etc. On peut discuter. Mais grosso modo, sur 2 siècles, le développement du capitalisme s'est fait, alors est-ce avec ou pas, en parallèle tout du moins, sans forcément mettre une raison de causalité entre les deux, s'est fait avec un développement de la démocratie, incontestablement. Et ce qu'on observe actuellement, c'est que la survie du capitalisme passe par des mesures qui mettent en cause la liberté et la démocratie. Et c'est ce qu'on commence à observer, on l'a vu avec Bush aux États-Unis, quand le capitalisme se développe en Chine, on voit qu'il s'accommode fort bien d'un régime autoritaire. Regardez Poutine en Russie, regardez ce qui se passe en Italie avec Berlusconi, on peut poursuivre les raisonnements, je vous laisse imaginer. Mais il y a incontestablement une tendance assez forte, qui s'est amorcée il y a 20 ans d'années, mais qui devient voyante depuis seulement 10 ans, qui fait que pour tenir, ce système a besoin aujourd'hui de dériver vers des formes autoritaires. Et que ce qui se passe, alors dans d'autres domaines, hein, on pourrait rebondir là sur plein de choses, hein, sur la psychiatrie en France, sur les écoles maternelles, sur la déviance, sur les gosses qu'on envoie en prison de bonheur, etc. Mais je vous laisse imaginer cela. Revenons à notre sujet. Dans le domaine d'Internet, les mesures qui sont prévues pour contrer le scénario qui est actuellement en marche, et à mon sens de façon inexorable, ce qui me rassure un peu, ce qui est prévu actuellement, c'est d'aller contrôler chaque foyer sur le disque dur des ordinateurs pour vérifier si nous nous comportons de façon légale. Parce que le gros problème, c'est que il y a aujourd'hui possibilité de télécharger gratuitement, c'est-à-dire sans payer. Ce qui n'est pas bien en soi, il faut essayer d'imaginer le système qui permettra la rémunération hein, des personnes qui sont à l'origine d'une production. On va y venir ensuite. Mais il est possible aujourd'hui de télécharger gratuitement des livres, des disques, des films, toutes sortes d'œuvres, des œuvres plastiques, etc. Et ensuite, de les diffuser à des amis sur des listes affinitaires par le système du peer-to-peer, comme disent les anglo-saxons, c'est-à-dire un système qui mutualise toutes les œuvres que vous avez dans votre ordinateur avec toutes les œuvres que plein d'autres personnes sur la planète ont dans leur ordinateur, et on s'échange comme ça automatiquement par des systèmes de peer-to-peer les œuvres que l'on a envie d'acquérir. Donc il y a un système de mutualisation des ordinateurs et de leur contenu en œuvres culturelles qui fonctionne très bien, qui permet une liberté d'accès à tout, et que ceci, évidemment, est incompatible avec les lois en vigueur qui ont été mises en place pour contrer cela. Quelles sont ces lois? Il y a des lois aux États-Unis, votées en 1998 et appliquées depuis l'an 2000. Il y a une directive européenne, je vous passe les détails, adoptée en 2001 et qui a été convertie dans le droit français en 2006, la loi DADFCI, qui est une loi qui prévoit, je vous le dis quand même en passant, 3 ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende pour les contrevenants. Bon, la chancellerie, c'est-à-dire le ministère, a envoyé une circulaire au parquet, c'est-à-dire au juge, pour qu'il n'applique pas avec beaucoup de zèle une telle mesure. Et c'est effectivement ce qui se passe, parce que ce serait de la folie. Il y a des millions et des millions et des millions d'internautes qui téléchargent des œuvres gratuitement. Ça veut dire à quel point le droit est complètement inadapté aux pratiques qui se sont développées jusqu'à aujourd'hui. Et que même s'il y a des lois liberticides qui sont mises en place, le nombre de téléchargements illégaux l'emporte très nettement aujourd'hui dans le monde sur le nombre de téléchargements légaux. Très, très, très nettement. Et que les téléchargements légaux dont on espérait dans les industries du disque et du cinéma qu'ils ne cesseraient d'augmenter, en fait, ils augmentent, mais de plus en plus lentement. D'accord ? Donc on est dans une situation où les industries culturelles ne savent plus quoi faire. Elles ont mis en place des lois liberticides. Alors la loi liberticide, je ne me suis pas arrêté dessus, mais je fais juste une petite parenthèse pour que vous compreniez à quel point c'est liberticide. Ils avaient prévu des systèmes de contrôle appelés les DRM. C'est un terme anglais, Digital Rights Management. En gros, c'est ceci. Si vous voulez obtenir une œuvre, il faut vous acquitter d'un paiement. Ok, hein, ça paraît logique. Hein. Mais évidemment, pour vous acquitter de ce paiement, il faut que vous montriez patte blanche, c'est-à-dire que vous avez un échange codé avec votre serveur, et ce serveur, par cet échange codé, va vérifier dans votre disque dur si vous avez bien payé pour pouvoir vous envoyer l'œuvre. Ce qu'on ne dit pas en général, c'est que cet échange codé, il peut véhiculer toute autre sorte d'information que cette simple vérification. Et vous comprenez bien que, par exemple, les fournisseurs d'accès à Internet, ceux que vous connaissez, hein, Orange, Free, etc., les fournisseurs d'accès à Internet sont très intéressés à savoir quelles sont vos habitudes de consommation, vos habitudes de vie, pour vous envoyer des publicités très ciblées. De la même façon qu'on peut imaginer, peut-être est-ce déjà le cas, mais enfin ne soyons pas trop paranoïaques, on peut imaginer que un système, un pouvoir, je dirais, qui dérive de plus en plus vers l'autoritarisme, aille vérifier quels sont les mails que vous envoyez, les mails que vous recevez, les sites que vous fréquentez, tout est possible, puisque c'est codé. Puisque c'est codé. Donc voyez, c'est la première fois dans l'histoire de la démocratie qu'un moyen est mis en place pour rentrer chez les gens, au-delà du paillasson, si vous voulez. Parce que moi, quand j'étais gamin, ce qui est arrivé à beaucoup d'entre vous, quand on copiait des disques, on achetait à ce moment-là des bandes, des cassettes en bande, on faisait ce qu'on voulait à la maison. On avait nos disques vinyles, on reportait ça sur une cassette en bande, puis après on se l'écoutait sur d'autres supports, bon, où on les refilait à des copains, etc. Bon. Mais personne ne venait vérifier ce qu'on faisait. Il y avait quand même une inviolabilité du domicile. Alors que là, on vient visiter dans ce qui sera peut-être le cœur le plus intime dans une génération de notre activité sociale et privée, c'est-à-dire le disque dur de l'ordinateur. Donc, il y a un vrai danger. Et alors, ce qui est, je dirais, presque le plus inquiétant, c'est que un des plus grands fabricants de DRM, justement, qui est Apple, Microsoft, c'est un gros fabricant de DRM, Apple aussi, a pour directeur un monsieur qui s'appelle Steve Jobs, et ce monsieur a déclaré en février 2007, on est presque certain qu'on n'arrivera pas à faire fonctionner les DRM. Parce que les hackers, comme on dit, c'est-à-dire les pirates, les grands spécialistes de l'informatique qui n'ont qu'une envie, c'est de faire sauter tous les verrous, trouvent parfois quelques 20 minutes après qu'un DRM ait été mis au point, le moyen de le court-circuiter et de s'assurer un téléchargement d'œuvre sans avoir à s'acquitter d'un paiement. Donc, ils savent très bien que ça ne pourra pas marcher. Alors, poursuivons le raisonnement, pourquoi s'obstinent-ils à le faire? Et c'est là qu'on peut se demander s'il n'y a pas un système liberticide plus profond qui est en train de se mettre en place subrepticement, sans qu'on s'en rende vraiment compte. Par ailleurs, comme les DRM ont une réelle impopularité et qu'il y a eu une riposte quand même des milieux internautes et puis aussi des parlementaires français qui, en décembre 2005, je parle là des députés, donc l'Assemblée nationale, avaient majoritairement voté pour un système de mutualisation justement et non pas un système qui repose sur le marché en s'appuyant sur les DRM restaurant une forme de rareté là où elle n'a plus lieu d'être. Et parmi ces députés, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y avait aussi bien des députés de gauche que des députés de droite. Parce que quand on commence à toucher aux libertés et à certains fondements de la République, ça transcende les appartenances politiques traditionnelles. Il y avait pas mal de députés de droite, donc dans une majorité, l'Assemblée majoritairement à droite, qui avaient voté en faveur de ce système de mutualisation. C'est au Sénat que c'est pas passé. Et le gouvernement a tapé du poing sur la table pour faire revenir dans le rang un certain nombre de députés de sa majorité pour que ce qui avait failli passer à l'Assemblée nationale ne soit pas retenu. Donc vous voyez que là, on touche à des choses qui travaillent sur toute l'ambiguïté qu'il y a entre libéralisme et liberté. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Hein. Pendant longtemps, le libéralisme économique s'est développé avec une certaine forme de libéralisme politique et donc avec un développement des libertés. Et on se rend compte à quel point aujourd'hui, il y a là une contradiction qui est de plus en plus forte entre libéralisme économique, c'est-à-dire l'intérêt des multinationales, pour parler très clairement, et l'idée même de liberté. Ce qui chatouille l'entendement de gens dont on pourrait penser qu'ils sont politiquement plutôt du côté des intérêts économiques. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a là un danger, une possibilité de déclin des libertés, et que le gouvernement ayant bien saisi, et là je parle du nouveau, hein, c'est-à-dire après l'arrivée de Sarkozy, que c'était impopulaire et que ça risquait de pas passer, de mettre les jeunes à dos, etc., il a imaginé un autre système répressif qui n'est pas encore voté, qui devrait être voté prochainement, puisque ça a été déjà adopté, je crois, par le Sénat et ça va l'être par l'Assemblée nationale, ou si c'est pas ça, c'est l'inverse, mais enfin, peu importe. Quoi qu'il en soit, ce système qui a été imaginé à la suite d'une commission présidée par M. Oliven, qui était le patron de la FNAC à l'époque et qui aujourd'hui est le patron du Nouvel Observateur, préconise ceci. Préconise que les fournisseurs d'accès à Internet repèrent les gens qui téléchargent sans payer, donc illégalement, qu'ils transmettent, ils dénoncent en fait cela auprès d'une autorité administrative qui donc enregistre le fait qu'il y a eu contrevenance. À la deuxième reprise, c'est-à-dire que s'il y a un deuxième téléchargement illégal, ils préviennent à nouveau l'autorité administrative. Et là, l'autorité administrative sanctionne. C'est-à-dire qu'elle suspend l'abonnement à Internet. Alors là, on n'utilise pas des DRM. Il n'y a pas d'intrusion dans le disque dur. Mais ça pose d'autres problèmes. Le premier problème qui me paraît très grave, c'est qu'on confie une mission de police à des entreprises privées, les fournisseurs d'accès à Internet. Je sais que les mouvements de privatisation sont allés très loin dans ce pays, mais à aucun moment on n'avait encore imaginé de privatiser ce qui est du domaine des tâches régaliennes de l'État, police, justice, etc. Et là, on touche à quelque chose de profond. C'est vraiment confier à des intérêts privés des missions de police. Deuxième problème qui est posé, c'est que l'autorité administrative en question va mettre en application une mesure de rétorsion, alors que normalement ça relève du judiciaire, du juge. Et c'est au juge à apprécier s'il y a eu contrevenance grave ou pas. Et cette automaticité au bout de deux contrevenances n'a rien à voir avec une décision de justice. C'est une décision administrative, même si pour la forme, on va demander à un juge d'intervenir, mais c'est une décision automatique et administrative. Et puis, il y a des problèmes de faisabilité. Pourquoi ? Vous prenez un gamin, par exemple, qui sait très bien se repérer sur l'informatique, qui va très bien voir que le Wi-Fi, vous connaissez le principe du Wi-Fi, du voisin a un numéro dont il connaît le code, par exemple, ne serait-ce que par les correspondances avec l'enfant du voisin, etc. Il va pouvoir télécharger par l'intermédiaire du Wi-Fi du voisin, qui va être pénalisé, alors que, voilà, on peut avoir des choses comme ça. Ou sur le lieu de travail, il y a la possibilité de télécharger et de pénaliser l'entreprise. On peut imaginer énormément de cas de figure et même ne serait-ce que ça, par exemple. Vous avez un gamin de 15 ans dont les parents ne sont pour rien dans le fait que le gamin de 15 ans télécharge. Et les parents vont être privés, surtout si c'est une formule à 3, c'est-à-dire de la télévision, du téléphone et de l'Internet, parce que le gamin de 15 ans a contrevenu à deux reprises et s'est fait choper. Suspension. Bon, donc ça présente quand même énormément d'inconvénients. Ça veut dire qu'ils sont en train d'essayer de se fouiller la cervelle pour trouver des procédés qui réinstaurent des ventes à l'unité là où elles n'ont plus lieu d'être. Je répète cela parce que c'est la réalité. Voilà. Sans parler que les hackers vont aussi trouver des moyens dérivatifs, etc. Bon. Bref, les moyens répressifs sont difficiles à appliquer, coûteux en plus. Hein, j'entendais, ça va créer des emplois. Oui, très coûteux à mettre en place pour ce qui est du deuxième système. Et en plus, ils ne fonctionnent pas bien. Ils sont pleins de perversité. Alors, voilà en gros un premier point, si vous voulez, de cette situation, face à laquelle la réponse qui est apportée par bon nombre d'artistes, par bon nombre d'informaticiens, de juristes, et je vous l'ai dit tout à l'heure, même par de nombreux députés de gauche comme de droite, qui en étaient d'accord en 2005, est un principe de mutualisation, et c'est le suivant, je vous le décris. C'est de dire, voilà, après tout, si la culture peut se diffuser de manière infinie avec Internet, ben il faut essayer de considérer ceci comme un acquis et comme un atout. Et il faut voir comment on peut rémunérer les producteurs et les créateurs dans un tel système. Ça devient un bien commun, ça ne peut fonctionner que par un système de mutualisation. Ce qui a été proposé et ce qui avait été voté à la majorité par les députés français est ceci. On applique une redevance, ils avaient imaginé 7 euros, de 7 euros par mois sur les abonnements à Internet, en plus de ce qu'on paye, et tout le monde peut alors, en s'étant acquitté de cette somme, librement télécharger les œuvres de son choix. Chacun peut télécharger les œuvres de son choix. Pourquoi ? Parce que ces 7 euros, il y a plus de 30 millions d'internautes en France, hein, ces 7 euros seraient reversés, ça peut être 10, ça peut être 12, ça peut être... Peu importe après, hein, ça c'est au législateur de réfléchir. Mais c'est, admettons 7, parce que je sais que les internautes interviewés, enfin, il y avait eu un sondage de fait par Médiamétrie, 75% des internautes étaient favorables à ce que ces 7 euros soient appliqués. Ils étaient d'accord sur ce chiffre. Quoi qu'il en soit, 7 euros par abonnement par mois, ça renfloue un fonds. Et ça donne des sommes qui se comptent en milliards d'euros. Hein. Ça renfloue un fonds. Ce fonds servirait à rémunérer les producteurs, les auteurs, les interprètes. Comment? Comment? Parce que c'est ça la question. Il faut une autorité de régulation. Ce n'est pas à l'État de faire ça. Ce qui a été proposé, c'est qu'il y ait une autorité de régulation, comme il y a le CSA dans d'autres domaines par exemple, une autorité de régulation qui serait composée, certes, de quelques parlementaires, parce qu'il en faut, des représentants de l'État, des informaticiens, des juristes, des représentants des auteurs, des représentants des interprètes, des représentants des producteurs. Et que cette autorité de régulation décide de l'attribution des sommes aux auteurs, aux producteurs et aux interprètes. Par quel biais? Selon quelle logique? Si quelqu'un vend beaucoup, il doit être payé plus que quelqu'un qui vend peu. C'est-à-dire que si, vendre n'est pas le terme exact en l'occurrence, mais si les œuvres d'une personne sont téléchargées massivement, s'il est très demandé, la rémunération qui va à l'auteur doit être supérieure à ce qu'elle est pour quelqu'un dont les œuvres sont très peu téléchargées. Comment repérer si une œuvre est beaucoup téléchargée ou pas sans visiter ce qu'on appelle les adresses IP, c'est-à-dire sans savoir qui a téléchargé, en respectant la liberté de chacun? Eh bien, sur Internet, il existe ce qu'on appelle des routeurs, c'est-à-dire c'est des aiguillages, si vous voulez, sur la toile, hein, ou sur la contre-toile, comme tu dis. Et là, on peut repérer combien de fois un fichier est téléchargé. Ce sont des logiciels assez faciles à mettre en place. Je me suis renseigné auprès d'un ingénieur qui travaille chez Cisco, qui est un des plus gros routeurs d'entreprise californienne, qui est un des plus gros routeurs au monde. Et on peut tout à fait repérer combien de fois un fichier est téléchargé sans savoir qui l'a téléchargé. Donc on peut parfaitement établir quelles sont les œuvres qui sont les plus demandées et téléchargées et celles qui sont le moins téléchargées. Et on paye au prorata. Et on reverse, donc sur la base du fonds ainsi réalisé, on reverse des sommes. Mais on peut ne pas reverser de façon parfaitement proportionnelle. C'est ça qui est intéressant. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le domaine de la musique? Je prends cet exemple. Vous avez des grosses vedettes qui vendent énormément de titres, qui gagnent énormément d'argent. Et puis vous avez des gens qui font de la musique extrêmement intéressante, parfois dans des domaines très pointus, hein, une sorte de jazz, ou peu importe, il y a des niches comme ça où il n'y a pas, je dirais, ce qu'on a sur les industries commerciales de masse. Et les gens n'arrivent pas à vivre. Donc, puisqu'on a une autorité de régulation, elle peut corriger. Elle peut, au lieu de payer au prorata, exactement au prorata, elle peut payer un peu moins que ce qu'elle devrait recevoir les grandes vedettes et un peu plus pour encourager certains types de créations musicales qui aujourd'hui ont du mal à vivre. Ce n'est pas une obligation. Mais ça veut dire qu'une autorité de régulation, ça devient un instrument de politique culturelle pour corriger les grandes inégalités qu'il y a entre les artistes. Comprenez ? Et puis il y a un autre élément qui peut jouer, c'est qu'on peut utiliser aussi une partie des sommes ainsi collectées pour soutenir la formation et la création des jeunes en particulier, de ceux qui émergent. C'est exactement ce qui se passe avec des organismes que certains d'entre vous connaissent, que sont la SACEM, la SACD, la DAMI, qui prélèvent des sommes sur les ventes de disques durs, etc. Et ces sommes servent à 25% à financer de la formation et de l'aide à la production et à la création dans des domaines où le marché n'aide pas beaucoup une émergence artistique. Donc on voit que cette autorité de régulation avec un fonds collecté comme ceci, par un surcoût sur les abonnements à Internet, cette autorité de régulation devient un instrument de politique culturelle et permet donc de défavoriser légèrement la grande production commerciale pour favoriser d'autres formes d'expression artistique qui ont du mal à vivre aujourd'hui. Voilà. Voilà ce qui est proposé. Et alors, ceci n'empêchera pas que les multinationales de la communication puissent avoir, au-delà de cette rémunération mutualisée, une rémunération traditionnelle sur des ventes de livres, sur des ventes de tickets de cinéma, sur des ventes de CD et de DVD qui continueront à se faire. Les gens, quand ils vont au cinéma, même s'ils ont la possibilité de télécharger gratuitement des œuvres, s'ils vont au cinéma, c'est aussi pour sortir, pour se retrouver, comme on l'est aujourd'hui, collectivement, sentir une salle vibrer au même moment face à un film, pour en rire, pour pleurer, etc. Bon. Donc, il y a toujours la possibilité de maintenir une économie traditionnelle dans l'industrie culturelle. Mais pour la part de plus en plus importante qui fera l'objet de téléchargements sur Internet, il faut penser une rémunération mutualisée. Je pense que là, nous avons les derniers soubresauts d'un système qui essaye de continuer à faire vivre une économie qui est une économie du XXe siècle, qui n'a pas vocation à tenir très longtemps. Elle ne peut tenir, encore une fois, qu'à la faveur de mesures liberticides, ce qui pose d'autres problèmes. Voilà en gros ce que j'avais à dire là-dessus, mais je n'ai pas tout à fait terminé. Vous avez peut-être des questions là-dessus. Je ne sais pas comment on procède habituellement, Jean. On fait un arrêt sur une partie ou je vais jusqu'au bout des raisonnements ou qu'est-ce qui te semble le mieux? On fait comme on veut. Alors, comme on veut, ce n'est pas moi. Voilà. Est-ce que déjà, sur ce que nous avons dit jusqu'à maintenant, il y a éventuellement des remarques? Non, on continue? Bon. Oui, monsieur.
Ça passe par Internet.
1, 2.
Oui, bonsoir. Quand vous dites qu'on mesure le nombre de téléchargements, c'est déjà ce qui se passe avec la pub et on sait très bien qu'il y a la fraude au clic.
Oui, alors ça, donc, c'est possible aussi. Oui, je vois très bien ce que vous voulez dire.
Je vois pas comment on peut mesurer.
Merci pour cette question parce qu'elle est excellente. Si par exemple, vous avez quelqu'un qui vient de créer une œuvre et qui a envie que cette œuvre lui rapporte de l'argent. Il peut s'amuser à cliquer pendant toute une journée sur sa propre œuvre, demander à des amis, des parents, etc. de faire la même chose pour faire gonfler artificiellement le nombre de téléchargements de son œuvre. À ce moment-là, il y a des procédés. Si on voit que c'est un même clic, c'est-à-dire que c'est une même origine, un même ordinateur qui télécharge plusieurs fois une même œuvre, c'est louche. On peut tout à fait mettre en place des petits logiciels qui neutralisent ces effets. Ça, je pense que c'est... J'avais posé la question aussi à la personne de chez Cisco avec laquelle j'avais eu cette discussion. C'est assez facile à neutraliser. Mais bon, il est possible aussi de créer de nouvelles adresses, etc. Ça s'étudie. Raison pour laquelle, dans l'autorité de régulation, il faut qu'il y ait des informaticiens, à mon sens, qui connaissent bien ces questions-là. Mais c'est une question tout à fait judicieuse.
Je crois comprendre, vous les mutualisez, mais moi, déjà, je n'ai pas Internet. Mais le jour où j'ai Internet, il se trouve que je n'écoute pas la musique, très peu. J'écoute Radio 4, la radio anglaise, qui est de la discussion en permanence. Donc moi, vous me demandez de payer 7 euros par mois pour des trucs qui ne m'intéressent pas du tout.
Très bien. C'est une excellente question. Ça aussi, c'est un débat de fond. Il y a deux solutions, monsieur. Ou bien ne s'abonnent que les personnes qui ont ne s'abonnent à cette redevance supplémentaire, hein, que les personnes qui ont le désir de télécharger des œuvres, s'il y a des personnes qui ne veulent pas s'abonner. Bon. Ça pose un problème, cette dissociation. Parce que les personnes qui, comme vous, ne souhaitent pas télécharger des œuvres sur Internet.
J'ai la particularité, moi, d'être le seul idiot à avoir plus de logiciels officiels sur mon ordinateur qu'il ne peut en contenir.
Ah, je vous félicite. Je suis incapable de faire un commentaire sur ce que vous venez de dire, mais je vous félicite.
Petite parenthèse, c'est pas pour autant que Microsoft me respecte parce que j'ai la version officielle d'Office sur mon ordinateur qui a 4 ans, j'en ai un nouveau maintenant, et puis Microsoft n'arrive pas à admettre que mon ancien, que je puisse passer ma nouvelle version sur le nouvel ordinateur. Alors quand même, merci Microsoft.
Ah ben je suis d'accord avec vous, monsieur. Si c'est là-dessus, il n'y a pas de problème. Au moins, là-dessus, on est d'accord. Mais sur la question que vous posez, qui est une vraie question. Ou bien on dit ceci, c'est-à-dire on ne fait payer la redevance qu'à ceux qui ont l'intention de télécharger des œuvres, qui s'accordent cette liberté, et on ne la fait pas payer à ceux qui ne veulent pas. Le problème qui risque de se poser, c'est que ceux qui ne veulent pas payer, il peut y avoir dedans des personnes qui vont quand même aller pirater. D'accord ? Donc ça réintroduit un élément de contrôle pour vérifier que ceux qui n'ont pas payé la redevance ne téléchargent pas, etc. Moi, je suis plutôt partisan. Je pense que vous n'êtes pas d'accord a priori. Je suis plutôt partisan du scénario dans lequel tout le monde paye. Et je vais vous dire pourquoi. La culture, elle participe au développement de la société. Non, mais je vais aller jusqu'au bout du raisonnement. La culture, elle participe au développement d'une société. à son dynamisme, à sa capacité de création, et elle concerne l'ensemble collectivement. Je conduis deux raisonnements parallèles. Par exemple, une personne âgée qui n'a pas de voiture, donc qui ne conduit pas, elle paie dans ses impôts l'entretien de la voirie, qu'elle n'utilise pas directement. D'accord ? Des parents qui, enfin plutôt des adultes qui n'ont pas d'enfants, qui n'ont pas eu d'enfants pour des raisons X ou Y, paient par leurs impôts un système d'éducation nationale. C'est-à-dire que parce qu'on considère que avoir une voirie et une circulation des véhicules facilitée ou des transports collectifs facilités, même pour des personnes qui ne voyagent jamais, c'est une bonne chose pour le fonctionnement et l'efficacité d'une société, parce qu'on considère qu'avoir un système éducatif payé par tous, c'est une bonne chose pour l'efficacité globale d'une société, on peut aussi, un jour, considérer que le développement culturel et la possibilité offerte à chacun de se procurer toutes les œuvres qui sont offertes de par le monde par un seul clic est un élément qui concourra à l'amélioration, à l'efficience, vous appelez ça comme vous voulez, de ce qui fait la vie, tout simplement, et la qualité de vie. Évidemment, il y aura toujours des personnes qui pourront se sentir lésées parce qu'elles ne seront pas intéressées directement à cet avantage, mais on peut aussi conduire des raisonnements collectifs. Voilà, c'est juste la réponse que je peux donner, parce qu'il n'y en a pas d'autre. C'est un débat, hein, c'est un objet de débat, monsieur, donc je ne vais pas plus loin. Voilà, c'est une mutualisation, c'est la sécurité sociale. Vous avez raison. Il y a plein de gens qui ne sont jamais malades. Allez-y, monsieur, je vous en prie.
Oui, je veux dire, tu ne payes pas, mais tu cotises à la sécu, puis c'est tout, c'est le même système. Voilà. Mais ça rejoint votre problème quand même sur les télévisions. C'est pareil, les gens, jusqu'à présent, ils payaient pas, ils disaient qu'ils n'avaient pas. Bon, maintenant, tout le monde paye, il faut faire la preuve que tu ne l'as pas. Le système, il est à l'absurde. Mais on peut être aussi d'accord avec ce que dit monsieur, hein, parce que moi, je suis pas...
J'entends bien. L'argument est tout à fait intéressant. Par contre, là où je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire que des personnes qui n'ont pas d'abonnement à Internet n'ont pas de raison de payer ça. Ça, d'accord. Ça, voilà. Mais le fait d'avoir un abonnement à Internet offre la possibilité de se procurer. Et je vous assure que ce que vous dites aujourd'hui, monsieur, sans vouloir préjuger de vos habitudes de vie, ce que vous dites aujourd'hui n'est pas forcément ce que vous direz peut-être dans 5 ans ou 10 ans. Parce que si cette possibilité très large était offerte, peut-être auriez-vous parfois l'occasion d'aller chercher une œuvre de ceci ou de cela. Qui sait ? Qui sait ?
Moi, je voudrais poser une question. Jusqu'à présent, avant Internet, on avait des lecteurs de cassettes, que ce soit magnétoscope, que ce soit son, et on ne nous demandait pas de payer. On téléchargeait, en fin de compte, avec un autre système qu'Internet, et on ne nous a jamais dit qu'on piratait. Quand je vais à la bibliothèque et que j'emprunte un livre, on ne m'a jamais reproché de piratage. Alors, je ne comprends pas bien, je comprends très bien le système mutualiste. C'est celui-là qui, à mon avis, pourrait compenser la perte des créatifs. Mais le fait de nous condamner parce qu'on télécharge, pourquoi pas à ce moment-là quand on va à la bibliothèque ? C'est pareil.
Alors, il y a juste une petite remarque tout de même. Vous ignorez sans doute que quand vous achetiez... Vous ignoriez sans doute que quand vous achetiez des cassettes pour faire des enregistrements, depuis 1985, la loi sur la copie privée, vous avez payé, parce que dans le prix était compris une redevance qui était versée justement aux sociétés de perception de droits qui reversaient pour partie cela aux créateurs, d'accord, et aux producteurs.
Oui.
Donc c'était justement un système de mutualisation qui ne se voyait pas, puisque c'était compris dans le prix. Mais vous savez que sur les fournisseurs d'accès à Internet... Si tout d'un coup, il y a 7 euros en plus, au bout d'un moment, on ne s'apercevra même plus. Je veux dire que dans une génération, ben on paiera tant, on ne fera même plus attention quels étaient le nombre d'euros qui étaient consacrés à cette mutualisation pour la rémunération des artistes. Je veux dire que ça passera dans les habitudes, c'est tout. Et je suis d'accord avec vous sur l'exemple de la bibliothèque, c'est la même chose. Voilà, sur les disques durs, sur les clés USB, etc. Monsieur, à nouveau.
Oui, non, voilà. Je trouve le système assez intéressant. Moi, je suis auteur. J'émets juste une réserve par rapport au calcul, justement, de répartition. Parce que pour moi, tout ça a quand même un petit goût de... si ça pourrait donner des idées à la SACD, ça pourrait aussi leur amener des idées du genre « on va rémunérer aussi les auteurs, par exemple, de télé, en fonction de l'audimat ». Parce que là, il est aussi un peu question de ça, c'est-à-dire que plus on est vu, plus on est entendu, plus on est enregistré, échangé, plus on touche. Et ça, je trouve qu'après, ça peut avoir des effets pervers sur, entre autres, la SACD et la SACEM, quoi.
Alors, j'aurais plusieurs réponses à dire, mais je ne vais pas trop délayer. Je pense justement qu'actuellement, quand il y a une vente de DVD, une vente de CD, contre une unité, il y a un prix. C'est-à-dire que la proportionnalité est directe sur des ventes de produits matériels. Bon. À la télévision, vous savez comment ça se passe. C'est-à-dire que les personnes qui participent à la création sont d'autant mieux payées quand on sait qu'il y a un renom qui va faire que ça va être davantage vu, que ça va vendre davantage de publicité, etc. Il y a une forme... Oui, j'entends bien. Les droits. Oui, d'accord. Vous ne me parlez que des droits. J'entends bien. Dans le système qui a été proposé tout à l'heure, sur la mutualisation, je me suis... j'ai bien pris la précaution de dire que ça pouvait être un système qui permettait une politique culturelle qui torde la proportionnalité. Et c'est là que c'est important. Je pense que là, il y a une décision politique à prendre en termes de politique culturelle pour éviter que cette proportionnalité intégrale ne restitue des droits à l'unité aux auteurs, parce que je suis entièrement d'accord avec vous pour dire que si on est dans cette proportionnalité intégrale, on favorise les inégalités à un point inimaginable.
Bon. Ça peut devenir un système,
Mais bien sûr, je suis d'accord avec vous. Mais ça, ce sont des mesures de politique culturelle. C'est-à-dire que c'est un mécanisme qui est décrit. Dans un mécanisme, il y a ensuite des choix politiques qui sont à opérer. Comprenez ? Donc, je ne préjuge pas de ces choix. On peut avoir un avis sur ces choix et j'ai le même que le vôtre. Je pense qu'il sera assez largement partagé. Parce qu'à partir du moment où vous mettez dans cette autorité de régulation des représentants des auteurs, des représentants des producteurs, c'est-à-dire des intérêts très contradictoires, on peut tout à fait imaginer qu'ils finissent par s'équilibrer et que des choses intéressantes en sortent, à mon avis. Voilà. Mais je ne suis pas d'accord pour confier à la SACD,
à
la DANI ou à d'autres, ou à la SACEM, pour ne prendre que ces trois-là, il y en a d'autres, les prérogatives de cette autorité. Il faut créer une nouvelle autorité pour la circonstance.
Oui, avec voilà. Qui puisse percevoir et redistribuer.
Tout à fait d'accord avec vous.
Oui, juste une petite précision là pour la remarque de monsieur tout à l'heure. Quand vous empruntez une œuvre dans une bibliothèque, alors notamment je pense au DVD, sachez bien que le prix bien que sûr. Paye la bibliothèque pour le DVD n'a rien à voir avec celui que vous avez, vous.
Bien sûr.
En fait, vous payez déjà, même si vous ne regardez pas le DVD, quoi, dans vos impôts.
Merci.
Oui, vous évoquiez le système péage et de mettre en fait un prix de X euros et vous évoquez le fait que ça serait à légiférer et ça serait un problème franco-français, mais j'arrive pas bien à cerner des œuvres, des auteurs qui sont planétaires hein, et tout peut être effectivement depuis chez soi écouter, enregistrer tout ce qu'on veut. Comment on va faire en sorte pour accorder en fait d'une manière planétaire tout ce petit monde, puisque en fait il suffit pas de légiférer à l'Assemblée et que nos parlementaires évoquent une loi et que ça puisse effectivement comment ça peut effectivement fonctionner du point de vue européen ou planétaire.
Quand des droits sont perçus en francs, il y a ensuite des accords qui sont passés entre les sociétés d'auteurs des différents pays. On peut tout à fait avoir des accords entre des sociétés d'auteurs de différents pays, si on parle des auteurs. Là, je ne parle pas des producteurs. Ce qu'il y a sous votre question, ça va assez loin. C'est-à-dire que, est-ce que c'est territorialisable ? Est-ce qu'on peut mettre en place un système comme ça à l'échelle de la France ? Ou est-ce qu'il faut attendre d'avoir un accord international pour qu'il puisse être viable ? Alors la réponse... elle est assez claire pour le moment, en tout cas, compte tenu de ce qu'est Internet aujourd'hui, c'est possible à l'échelle d'un territoire national. Pour une raison très simple, c'est que, mis à part des cas très particuliers où Internet voyage par satellite, genre sur certains téléphones ou des choses comme ça, mais ce n'est pas du haut débit. Le haut débit, ça passe par des fils de cuivre et demain, par des fibres optiques. Or, des fils de cuivre et des fibres optiques n'arrivent chez vous que parce qu'ils circulent sur le territoire français. Donc on n'est pas du tout dans le même cas qu'avec les paraboles, etc. On n'est pas dans une relation directe avec un pays étranger par le ciel. C'est territorialisé parce que la technique suppose des fils donc, qui passent sur le territoire. Voilà. Sur le fond, la réponse, elle est là. Et après, il suffit d'avoir des accords avec d'autres pays pour que ce qui a été perçu sur des œuvres étrangères soit restitué au prorata de ce que nous, nous avons mis en place comme législation. La seule chose qu'il faut quand même dire, au-delà de ce que vous dites, c'est qu'on peut espérer que ce système, qui sera, à mon sens, avantageux, il y a un livre qui vient de paraître de quelqu'un qui s'appelle Philippe Aigrain, A-I-G-R-A-I-N, qui lui est un livre moins politique que le mien, mais un livre qui est beaucoup plus technique, qui met en évidence qu'un système de mutualisation peut rapporter beaucoup plus pour les auteurs et les interprètes que le système actuellement en vigueur. Et il est fort à parier, enfin lui c'est le pari qu'il fait, c'est un ancien commissaire européen, enfin c'est quelqu'un de très pointu, il était à la Commission européenne auparavant, et il lui dit que les autres pays, si une initiative comme ça a été prise en France, auraient tôt fait d'avoir une pression de leurs interprètes, de leurs artistes, pour qu'un système équivalent soit adopté chez eux. Et qu'on peut imaginer qu'à partir d'un pays, ça fasse rapidement tache d'huile. Et il y a déjà des syndicats d'interprètes, d'auteurs, etc., au Canada, en Suède, en Allemagne, même en Angleterre, qui se sont prononcés en faveur de ce système de mutualisation. Figurez-vous que je me suis retrouvé dans un colloque il y a un an et demi. Et à ce colloque participait l'ancien manager des Pink Floyd, quelqu'un qui s'en est mis sans doute plein des poches à une époque où Pink Floyd vendait énormément de disques. C'est quelqu'un qui a profité de l'industrie du disque selon l'économie traditionnelle, celle du XXe siècle. Et c'est quelqu'un de plus âgé que moi. Et lorsque je parlais avec lui, lui était, à ma surprise, complètement d'accord avec un système de mutualisation. Quelqu'un intelligent qui avait tout de suite compris qu'on ne pourrait pas faire durer le système actuel trop longtemps. Et il était même partisan, figurez-vous, d'appliquer 12 euros en plus sur les abonnements à Internet. Vous rendez compte ? Dans un pays où l'impôt, la redevance, la taxe fait pousser des cris d'orfraie dans des milieux économiques et politiques beaucoup plus que chez nous. Donc ce qui veut dire quand même que cette idée fait son chemin et qu'on pourrait imaginer qu'assez vite, elle puisse être adoptée par d'autres pays. Sauf si, et je ne cesse de le redire, hein, sauf si les pouvoirs en place, avec peut-être d'autres idées derrière la tête, font tout pour empêcher cette conversion, ou pour la retarder, et peut-être pour d'autres idées, d'autres raisons.
Moi, j'aime pas trop télécharger parce qu'il y a l'idée de possession à tout prix où il y a des gens qui ont vraiment des milliers d'heures de musique et de films sur leur PC. Ils les regardent même, ou sur leur Mac, ils les regardent même plus et ils les écoutent plus. Mais c'est l'idée de posséder, d'avoir sans payer. Donc, moi, ça me gêne pas. Ils font ce qu'ils veulent. Donc, ce que j'aime bien, c'est la méthode du streaming.
Bien sûr.
Qu'en pensez-vous ?
Oui, je suis complètement d'accord. Je n'ai pas eu l'occasion de développer ça, mais vous avez raison. C'est ce qui se développe.
Voilà.
Alors le streaming, pour ceux, je prononce à la française, c'est-à-dire que au lieu de télécharger, c'est-à-dire de mettre l'œuvre sur votre disque dur, vous pouvez l'avoir quand vous voulez, sur une base de données, d'accord ? C'est-à-dire que vous allez l'écouter, la voir, la lire, quand vous voulez, sans avoir à la rapatrier sur votre disque dur. Vous n'avez pas à l'approprier. Ben, je peux vous assurer, madame, c'est logique. À partir du moment où il deviendra légal de télécharger librement, les gens n'auront pas cette compulsion d'appropriation. Ils sauront qu'ils pourront prendre quand ils veulent les œuvres en streaming sur les serveurs. Je pense que ça se fera naturellement. Pourquoi y a-t-il eu une telle compulsion ? C'est parce que les gens se sont justement dit qu'il pouvait y avoir une interdiction à un moment donné avec des lois liberticides et qu'ils se sont empressés de télécharger des choses qu'ils n'ont même pas le temps de voir. Pour un jour hypothétique où ils pourront le faire. Et je suis d'accord avec vous sur cette pulsion d'appropriation qui a quelque chose d'assez malsain. Mais si, justement, il y a une liberté d'accès aux œuvres à partir du moment où on met un système de mutualisation en place, ben cette compulsion-là sera inutile. Alors, je veux bien encore entendre une ou deux questions sur ces points précis, mais il y a d'autres volets dans le rapport à Internet, entre Internet et la culture, que je peux aussi maintenant développer. Est-ce que vous avez encore des questions sur ce dont nous avons débattu jusqu'à maintenant ? C'est bon, hein, on peut avancer ? Alors, donc, on pourrait y revenir d'ailleurs, hein, à la suite, parce que tout est lié, vous allez voir. Donc, ce qu'on a dit jusqu'à maintenant,
c'est qu'il y a une forme d'économie qui est en péril, avec des réponses liberticides, qui peuvent avoir comme substitut un système de mutualisation, avec une viabilité absolument prouvée. Deuxième volet, puisqu'on évoque les rapports entre Internet et la culture, on va essayer de voir de façon plus profonde, dans le fonctionnement anthropologique, le fonctionnement de nos sociétés, dans la création artistique, quels sont les effets d'Internet et du développement des technologies numériques. Il faut bien comprendre une chose, c'est que nous sommes là, à ce que les spécialistes ont l'habitude de dire, que nous sommes en présence de la troisième grande révolution industrielle. Hein. Première, donc le charbon et l'acier, la deuxième, c'est l'électricité, et puis là, la révolution informationnelle, qui en fait n'en est qu'à son enfance quant au développement et aux implications qu'elle aura. C'est une révolution qui n'a rien à voir avec les deux précédentes. Parce qu'on change véritablement de monde. Cette fois, ça touche à la circulation des signes, à la circulation, à la communication, aux manières de vivre ensemble, à la définition de notre espace de référence, en ayant parfois des amis, comme ils disent, j'aime pas beaucoup ce terme, à l'autre bout de la planète, parce que ça n'a pas de sens. Simplement des relations, pourquoi amis, ça c'est tout à fait anglo-saxon quand même. Avec toute une représentation du monde qui s'en trouve transfigurée. Dès lors, cette révolution-là est de nature anthropologique, de nature beaucoup plus profonde que les révolutions industrielles que nous avons connues au début du 19e siècle pour nous, fin 18e pour l'Angleterre, et à la fin du 19e pour nos pays d'Europe, c'était la seconde. Nous avons très probablement des bouleversements qui vont toucher, certes, l'art, je vais y revenir, mais aussi la politique, le rapport au pouvoir, le rapport à l'information, et que nous allons vivre là, dans les 20 ans qui viennent, nous et les générations qui nous suivent, une révolution d'une amplitude que l'on mesure encore assez mal. J'essaye d'expliquer ce que je suis en train d'avancer. D'abord, nous l'avons vu, la circulation des informations est facilitée comme jamais elle ne le fut auparavant. D'ailleurs, des pouvoirs autoritaires comme la Chine s'en accommodent mal d'Internet. Ils sont prêts à payer un nombre incalculable de personnes pour surveiller les internautes chinois. On a là, par rapport à l'idée de liberté d'accès aux informations et aux œuvres, quelque chose de tout à fait inédit. Le deuxième élément très important, c'est que le rapport à l'information est complètement transfiguré. Nous n'avons plus une information qui circule du un vers tous, mais du tous vers tous, ce qui change complètement la donne. De sorte qu'un internaute peut, même j'irais, doit avoir une réelle autonomie de l'initiative et un sens de la participation pour aller à la recherche des informations et des œuvres vers lesquelles il tend. Il a une capacité à flâner sur Internet. Cette idée de flânerie est très importante, parce qu'on peut aller essayer, écouter un peu de ceci, écouter un peu de cela, regarder un peu de ceci, regarder un peu de cela, pour se faire une idée très rapidement de ce qui est proposé ici ou là. Et cette flânerie participe d'une autre façon de se construire, d'une autre forme de relation humaine que ce qui a existé jusqu'à maintenant. Il y a là une forme d'autonomie et d'obligation à l'autonomie qui nous éloigne, là encore, de la verticalité du un vers tous normative à laquelle nous avons été habitués. Alors, je ne suis pas en train de dire que la norme et la verticalité sont mauvais en soi. Je pense qu'ils sont nécessaires en même temps. Mais que Internet offre la possibilité de construire son propre itinéraire de connaissance, sans être assujetti à des filières de formation, des filières d'information. Troisième élément, et c'est à mon sens le plus important, Internet rompt la séparation entre émetteur et récepteur, entre offre et demande, entre producteur et consommateur. Car sur Internet, on est tous à la fois récepteur et émetteur. Tout du moins, on peut tous être à la fois récepteur et émetteur. Et en général, nous le sommes, car nous répondons, nous écrivons, nous participons, etc. Et ça, d'un point de vue anthropologique, c'est énorme. C'est la première fois dans l'humanité qu'on peut à ce point rompre avec l'image, je dirais, du chef, du démiurge, de celui qui sait, de celui qui a le pouvoir. Je prendrai simplement deux exemples en dehors du domaine culturel. Dans le champ politique, prenez, je pense que le dernier débat politique qui a été important dans ce pays, où il y a vraiment eu un débat politique, démocratique, profond, c'est à l'occasion du traité constitutionnel européen, ce référendum. Quel que soit le résultat, je ne conteste là, je veux dire, ça, on pense ce qu'on veut. Mais ce qui est intéressant dans le processus, c'est que pour la première fois, nous avons eu des internautes, savants, pas savants, peu importe, capables de produire des réflexions, d'émettre des idées par des textes courts, longs, qu'ils ont envoyés sur Internet sur des listes multiples, et que ces listes ont concouru à damer le pion à la plupart des représentants politiques flanqués de leurs habituels experts. C'est-à-dire que l'expertise politique et la professionnalisation du personnel politique a buté face à une émanation venue de partout, de gens qui n'étaient pas forcément des professeurs d'université et des économistes émérites, mais qui ont émis des idées tout à fait intéressantes, soit dans un sens, soit dans l'autre, qui ont circulé sur Internet. Et ça montre à quel point les formes habituelles de médiation politique sont mises en danger, en inconfort, mais un salutaire inconfort, par ce moyen de produire soi-même et de diffuser à grande échelle des idées. Tout d'un coup, les citoyens ont la possibilité d'avoir un média à leur disposition, alors que les grands médias ne sont réservés qu'à une minorité de personnes. Et ça, ça change la donne. Parce que l'image de la personne référente, du chef, du démiurge, comme je le disais tout à l'heure, elle ne peut plus être la même dans une société qui se développera avec des moyens comme cela. Et que les générations qui arrivent, je pense en particulier, je vais vous donner juste une petite anecdote dans le champ politique, ces générations-là, je ne sais pas quel âge vous avez maintenant, mais qui ont lutté contre le CPE. C'était quand ça, il y a quelques années? Ah non, 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 le CPE, c'est beaucoup plus récent. Oui, oui, ça doit être 2005 ou quelque chose comme ça, 2005-2006, oui. Oui, 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 voilà. À un moment donné, le Premier ministre, M. de Villepin, intervient sur le journal de TF1 à 20h en s'adressant aux lycéens et aux étudiants. Il s'adresse aux lycéens en pensant que les lycéens allaient l'écouter. Il y avait une parole qui se voulait rationnelle, sage, de retour à la modération, etc. etc. Ce qu'il n'avait pas imaginé, c'est qu'à cette heure-là, les lycéens étaient, pour beaucoup d'entre eux, sur les, tenez-vous bien, 28 000 blogs qui avaient été ouverts sur la question du CPE. Et là, on change complètement la donne, c'est-à-dire que le pouvoir hypnotique, le pouvoir tout court de la télévision, ne pourra plus être celui qu'il a été et qu'il est encore aujourd'hui. Parce que quand ces jeunes générations-là, qui ont pris l'habitude de s'informer beaucoup plus sur Internet que par la télévision, auront grandi, auront des enfants qui feront pareil, etc. C'est la majorité, sans prendre en compte le fait que nous, nos générations, eh bien, ils s'y sont mises aussi. Et nous aussi, nous nous informons de plus en plus sur Internet. En tout cas, je pense que c'est le cas. C'est écrit, c'est dit, c'est calculé. Donc, ça signifie en fait que cette communication de l'information du un vers tous des grandes télévisions est mise en péril par une communication du tous vers tous. Je ne dis pas que la communication traditionnelle va disparaître, mais elle est largement concurrencée par cette circulation de l'information qui est faite par des récepteurs émetteurs et pas simplement par des personnes qui sont en situation passive de réception. Et ce qui est vrai dans le champ politique l'est aussi dans le journalisme où on voit apparaître. C'est pas encore trop le cas en France. Je cite dans le livre le cas d'un journal en Corée du Sud qui s'appelle Oh My News, qui est un journal qui est le plus gros journal de Corée du Sud sur Internet. Il est sur Internet. Et il y a là une équipe de rédaction, une petite centaine de journalistes, dont le métier a changé. Certains des articles qui sont sur le site sont écrits directement par eux. Mais de très nombreux articles sont écrits par des citoyens reporters. Alors évidemment, il ne s'agit pas de mettre en ligne tous les articles qui sont reçus, parce qu'il y aurait tout et n'importe quoi. Les journalistes voient leur métier évoluer, ils sont obligés de filtrer, de vérifier les informations et aussi de vérifier que les informations sont dans la ligne éditoriale, parce qu'un journal, c'est normal, a une ligne éditoriale. C'est un journal d'opinion, et pas, ça n'existe pas, les journaux d'information neutre. Donc, on a une évolution du métier de journaliste, où les journalistes écrivent et font de la médiation, et les lecteurs, certes, lisent, mais aussi émettent, ou tentent de faire publier. Vous voyez là que la circulation de l'information, l'organisation du pouvoir sont totalement transformées. Et j'arrive au domaine artistique, puisque c'est quand même celui qui est le plus lié à nos affaires culturelles. Eh bien, c'est en train de se passer aussi. Aujourd'hui, il y a la possibilité, et les jeunes ne s'en privent pas, d'acheter pour un prix modique un logiciel de montage d'images, un logiciel de montage de son. Et les jeunes, que ça intéresse, s'essaient à faire des œuvres. Il y a des groupes, en Angleterre, partout, comme voilà, des groupes qui sont sortis comme ça par Internet et ont été ensuite signés par les majors, tant qu'elles sont encore là, pour survivre, bien entendu. Mais ce qui veut dire quand même qu'il y a la possibilité pour des gens qui sont des praticiens d'Internet de produire du contenu. C'est-à-dire qu'il y a trois possibilités. Un, on peut aller flâner pour chercher du contenu culturel. Deux, on peut médier, c'est-à-dire qu'on peut transmettre du contenu qu'on aime à des gens qu'on aime ou qu'on ne connaît pas. Et trois, on peut soi-même produire du contenu et le diffuser gratuitement. Ça change complètement les choses. Bien sûr, il va y avoir profusion. Bien sûr, dans cette profusion, il y aura beaucoup de choses médiocres. Donc, il faut mettre en place des filtres. Des filtres qui peuvent être autorégulés, d'ailleurs, sur Internet. On peut avoir des internautes qui, dans un coin, vont tout d'un coup, parce qu'ils se passionnent pour un certain type de musique, avoir une plateforme de téléchargement associative, où ils recommandent tel type de morceau, tel type de morceau, tel type de morceau. C'est-à-dire des passionnés vont jouer un rôle de filtre, de sorte que des internautes qui aiment ce type de musique savent qu'en allant sur ce site, ils vont déjà avoir des propositions filtrées, ce qui leur évite d'être dans le grand vrac des propositions qui circulent et circuleront sur Internet. On peut tout à fait imaginer que des filtres de l'économie solidaire et associative soient mis en place et qu'on ne confie pas aux seuls majors le droit de décider ce qui est bon à entendre et ce qui est bon à voir. D'accord ? Donc on voit là qu'il y a un bouleversement profond, puisque la production artistique va être enrichie de ce qu'on appellerait aujourd'hui des œuvres d'amateurs. Mais je suis, en étant directeur de théâtre, bien placé pour vous dire qu'il y a des œuvres d'amateurs qui valent bien des œuvres de professionnels. Ça, je veux dire, c'est ce que je dis souvent, c'est comme dans les mines d'or, c'est-à-dire que si vous multipliez le nombre de chercheurs, vous avez de plus de chances de trouver des pépites. À partir du moment où vous savez reconnaître, faire reconnaître, et qu'il y a des filtres associatifs qui puissent se mettre en place. La deuxième chose à laquelle on est confronté sur Internet, c'est que l'art de créer n'est plus du tout le même. Ostensiblement, de manière parfaitement assumée, la jeune création aujourd'hui pratique le mix. C'est-à-dire qu'ils prennent un morceau existant de musique baroque, ils prennent un morceau existant de hard rock, ils créent un troisième volet et ils vous font une œuvre avec tout ça. Alors ça, c'est nouveau. Enfin, c'est nouveau, non, c'est pas nouveau. Disons que à ce point, c'est nouveau. Ça s'est beaucoup développé ces dernières années dans la jeune création musicale. Ça commence à se faire également dans le domaine du cinéma. Il y a des jeunes, par exemple, qui ont donné une suite à La Guerre des Étoiles, qui ont imaginé une suite à La Guerre des Étoiles, qui ont acheté des logiciels d'effets spéciaux et qui ont construit la suite. Et c'est un film qui a été téléchargé à des millions d'exemplaires à travers le monde. Bon, et tout est possible. On mixe des images existantes avec des images qu'on tourne, avec des images existantes mais qui n'ont rien à voir avec les premières, etc. Et on crée des œuvres comme ça à partir d'œuvres existantes et à partir de créations nouvelles. C'est une nouveauté, mais en même temps, c'en est pas une. C'en est pas une parce que finalement, le caractère démiurgique un petit peu de la création tombe. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est, à une échelle moindre, toujours passé. Les fables de La Fontaine, je vous raconte pas l'histoire. Ésope, bien sûr. Le Don Juan de Molière, ça vient d'Espagne, on le sait. Bon, les suites pour violoncelle de Jean-Sébastien Bach empruntaient à la musique populaire des gigues et des allemandes. Les danses hongroises de Brahms, d'où viennent les thèmes ? Des danses populaires. Et on peut multiplier les exemples. Je veux dire qu'il n'y a pas d'immanence de la création. Et en cela, ce qui est en train de se passer est anthropologiquement, je reviens sur ce terme, je m'en excuse, hein, c'est pas du tout pour être pédant, très fort. Pourquoi ? Parce que, finalement, le statut de l'artiste en Occident est arrivé, de manière un peu déformante, au XXe siècle, à un niveau qui ne favorise pas le lien entre culture savante et culture populaire. Je m'explique. À partir de la Renaissance, je vais tenir un raisonnement un peu rapide, peut-être pour vous, mais ça mériterait sans doute plus de développement que ce que je vais faire. À partir de la Renaissance, il y a incontestablement en France, puis dans beaucoup de pays européens, une perte de centralité de la religion. Hein ? La religion est toujours très présente pendant plusieurs siècles, aujourd'hui encore, mais elle était complètement centrale dans l'organisation de la vie sociale au Moyen-Âge, et elle perd cette centralité progressivement à partir de la Renaissance. Et l'art s'est engouffré dans cette béance laissée par la perte de centralité religieuse. Et progressivement, jusqu'au romantisme, où là, ça devient presque caricatural, au moment du romantisme, on sublime cette perte d'absolu dans la création artistique. Ce qui donne à l'artiste romantique un statut de quasi-créateur divin. C'est l'image du créateur romantique, du grand musicien, du grand auteur, etc. Alors que ça pouvait être des gens très sympathiques et très simples dans la vie et dans le quotidien. Mais l'image projetée, l'image qui est projetée de l'artiste à ce moment-là, en Occident, est complètement disproportionnée. L'artiste est considéré comme cet être rare, auteur de gestes fulgurants, définitifs, qui arpente les confins du ciel, qui tutoie l'éternité et qui, du haut de ses sphères, dispense des œuvres qui doivent être ressenties par les personnes qui viennent les admirer. Il y a un rapport, si vous voulez, là encore très vertical, entre cet artiste démiurge, pour reprendre le terme volontairement, et le public qui, dans une passivité béate, souvent méritée sur la qualité de certaines œuvres, bien entendu, moi-même je suis un adorateur de certaines musiques, etc. Mais je veux dire que là, il y a un statut de l'artiste qui est complètement disproportionné. Et ce qui s'est passé au XXe siècle, tout du moins dans la deuxième partie du XXe siècle, c'est que cette figure de l'artiste démiurge et intouchable commence à se fêlurer. Pourquoi ? À se fêler. Je vais faire du Ségolène Royal. Mais c'est joli quand même. Mais donc, à se fêler. Pourquoi ? Parce que le capitalisme maternant d'après 1945, j'emploie le terme volontairement, je parlais du démiurge qui est une figure paternelle. Le capitalisme maternant d'après 1945, pourquoi est-il maternant après 1945 ? Parce qu'il fallait mettre un gros mouchoir sur les questions irrésolues des années 30. Et que maternant, parce que société de consommation. La société de consommation, ça se donne à téter, si vous voulez. Et après la téter, on s'endort, c'est fait pour ça. D'accord ? Et ce capitalisme maternant va fournir une culture de divertissement qui se donne à téter, précisément. Mais cette culture de divertissement casse le mythe du créateur démiurge, parce que la qualité de cette création est parfois très contestable. Mais ça aura peut-être eu cette fonction historique, en quelque sorte, que de casser une figure de l'artiste telle qu'elle avait été intériorisée dans les siècles précédents. Avec Internet, ni l'un ni l'autre, ni papa ni maman, l'autonomie. Pourquoi ? Parce que Internet n'a pas de centre. Internet n'a pas de centre. Au centre, il y a les connexions. Avec Internet, l'intelligence est derrière chaque ordinateur. C'est-à-dire, c'est chaque internaute qui a l'intelligence. Dès lors, on n'est plus du tout dans une communication du un vers tous, mais du tous vers tous, comme je le disais. Alors que dans la fonction culturelle traditionnelle, qu'il s'agisse des majors, où vous avez quelques entreprises multinationales de la communication qui dispensent des œuvres à un gros renfort de marketing à destination de tous, du 1 vers tous. Les politiques publiques de l'art, vous allez me dire qu'ils sont antinomiques par rapport au capitalisme commercial dans le domaine de la culture. Mais ces politiques publiques de l'art ne remettent pas en cause le un vers tous, ne remettent pas en cause la verticalité. Des experts vont dire ce qu'il est bon de diffuser et les gens vont venir passivement assister aux œuvres qui sont diffusées à renfort de subventions publiques. On est dans deux logiques qui sont contradictoires par certains aspects, mais qui se rejoignent là-dessus. Et ce qu'il y a d'intéressant dans Internet, justement, c'est qu'au lieu de placer passivement des publics cultivés dans un cas, moins cultivés dans l'autre, devant des œuvres, de placer passivement des publics devant des offres, une demande passivement assise devant des offres, Sur Internet, il y a participation, il y a échange, il y a médiation, il y a construction d'itinéraires de culture personnalisés. On est dans de l'actif. Et ça permet, très paradoxalement, cette hypermodernité permet de renouer avec ce qu'ont été les cultures populaires traditionnellement. Il n'y a pas de culture populaire sans participation. Il n'y a pas de culture populaire sans pratique. Il n'y a pas de culture populaire sans relation. Pourquoi croyez-vous que les gamins, là, téléchargent en étant dans une posture illégale, cheminent sur le fil de l'illégalité à des millions de gamins en France? Certes, vous allez me dire, c'est pour des questions économiques, mais pas seulement. C'est peut-être aussi parce qu'ils ont envie de construire leur propre itinéraire. C'est peut-être aussi parce qu'ils ont envie de transmettre ce qu'ils aiment. Et c'est peut-être aussi qu'ils ont envie de produire des contenus. Et c'est là que ça change complètement. Et qu'on renoue avec des formes de circulation de la culture qui sont antérieures aux périodes dont je viens de parler. Et que, tu me disais tout à l'heure, Jean, j'en ai marre d'être devant mon ordinateur. Par moments, j'ai envie de sortir et d'aller voir des gens. Eh bien, c'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que la solitude face à l'écran va génère déjà une envie de s'investir dans une vie culturelle micro-locale. Parce que quitter, certes, on est connecté avec plein de gens de par le monde, mais on est dans cette solitude physique face à l'écran. Et qu'elle génère cette envie de s'investir dans une relation directe avec des gens. Pourquoi croyez-vous que les cafés musiques se développe autant en France aujourd'hui? Pourquoi les petites salles de musique actuelles se développent et ont de plus en plus de public? C'est peut-être pour ça, parce qu'ils en ont, certes, ils téléchargent, ils connaissent beaucoup de choses, mais ils ne peuvent pas rester en permanence devant leur écran. Et que le paradoxe est là, c'est que cette solitude va générer ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, des choses comme ça. De plus en plus, les jeunes aspirent à ça. Voilà. Et donc là, il y a des révolutions très intéressantes qui sont en train de s'opérer. Vous avez demandé la parole.
D'accord. Juste quand c'est l'inverse, que les gens sont seuls dans leur vie et qu'ils s'inventent une vie dans Second Life ou qu'ils ont plus de life du tout. Enfin, comme des jeux qui bouffent 10-12 heures par facilement par jour. Enfin, des gens qui sont seuls vraiment, qui n'ont plus de liens sociaux. Et justement, à l'inverse, qui se réfugient là-dedans où ils sont complètement absorbés.
Les deux sont possibles, tout à fait. Alors, c'est là que je pense que c'est bien joli de dire Internet favorise le participatif, la relation, la... Que les gens, en fait, quelles que soient les générations, je vais répondre à votre question, je fais juste un petit détour pour mieux y revenir. Quelles que soient les générations, les gens en ont marre de ne pas participer à la production de la vie symbolique. Je pense profondément. Je ne sais pas ce qu'il en est ici, mais moi, quand j'étais gosse, dans les années 60, en Bretagne, bon, c'est vrai que ça buvait beaucoup, mais il n'y avait pas un repas qui se terminait sans qu'il y ait des chansons. D'accord ? Ça se fait encore dans certaines familles, etc. Mais disons que c'est une tradition qui s'est perdue. C'était de la culture populaire vivante. Aujourd'hui, les gens sont assis passivement devant leur télévision. C'est-à-dire que l'industrie culturelle a tué ces pratiques populaires. Les bals publics, les bals de village improvisés les soirs de printemps, fin juin, quand il fait si bon la nuit ou l'été... Et que des gens, parfois, allez, on sortait le phono et on se mettait à danser sur la place du village. Et puis, il y avait le voisin qui descendait. Et puis, on improvisait un bal pendant 2 heures. Les gamins étaient tout contents. J'ai vécu ça. Et je sais que ça s'est fait beaucoup moins par la suite. Et je ne vous parle pas des carnavals satiriques du XVIIIe siècle, qui étaient une tradition de participation de toute la population à une manifestation de ville qui était vraiment ressentie, pas artificielle, où tout le monde participait, on inversait les rôles sociaux, etc. Vous connaissez un petit peu les codes. Donc tout ça, ça a disparu, ou pratiquement disparu. Ça subsiste en certains endroits, mais tout de même, ce n'est plus ce que c'était. Bon, voilà. Oui, le nord de la France, vous avez raison. Mais ça a quand même beaucoup, beaucoup diminué. Et ce manque-là fait qu'il y a, à mon sens, un désir qui n'est pas toujours révélé de participer. Alors, certes, la participation par Internet peut être une fuite en avant, mais je pense qu'il y a un équilibre à trouver entre une libération de l'accès aux œuvres sur Internet. On n'a même pas besoin d'être de manière, comme disait Madame, compulsive, en train de chercher des choses sur Internet. On sait qu'on les a. Ça y est, on a payé. Quand on veut, on peut y aller. On n'a pas besoin. Voilà. C'est libre. Le rapport n'est plus aussi pervers dès que le système de mutualisation est en place. Par ailleurs, si on met en place des politiques culturelles, en particulier à l'échelle locale, dans les campagnes, dans les quartiers des villes, dans les centres-villes, partout sur le territoire, des politiques culturelles qui permettent de construire une autre relation entre les artistes et les habitants d'un territoire, de construire de la participation, eh bien, on a toutes les chances de régénérer cette forme de participation et de gommer l'ennui terrible dans lequel les gens vivent aujourd'hui. Les no-life sont des gens qui s'ennuient dans la ville. Donc, ça veut dire qu'il y a une conjonction à opérer entre une autre façon d'appréhender Internet, et le système de mutualisation dont j'ai parlé avant est certainement la piste principale, et le développement de politiques culturelles inventives qui construisent de la relation nouvelle entre ceux qu'on appelle les artistes professionnels, les praticiens amateurs, d'autres gens, etc. C'est pour ça que le participatif, c'est bien joli le participatif, mais le participatif, ça se prépare. Pour que les gens puissent être participatifs de manière intéressante, il faut les y préparer. Il faut que partout, y compris dans les villages, on réussisse, avec quelques fonds publics, par l'intermédiaire de petites associations, à familiariser les gens qui ne le sont pas encore avec l'outil Internet, apprendre à faire de la médiation intelligente sur Internet, apprendre à se repérer sur Internet pour aller trouver sur les bons sites, etc., les œuvres intéressantes. Et aussi, apprendre à produire du contenu, c'est-à-dire des ateliers d'écriture. Dans toutes les médiathèques, il existe aujourd'hui des logiciels, par exemple, d'écriture collaborative, où des gens construisent des romans à plusieurs, y compris à travers les pays. Voilà. Il existe des modes de production musicale, de production cinématographique, qui peuvent être comme ça mutualisés entre des gens qui se trouvent parfois dans des pays différents. Mais tout ceci, ça se prépare. C'est-à-dire qu'il faut former les jeunes et les moins jeunes. Vous savez, je suis allé au Venezuela. Les campagnes d'alphabétisation au Venezuela, elles ne concernent pas que les jeunes dans un souci d'améliorer l'efficacité économique pour demain. Il y a des personnes âgées de 80 ans à qui on donne la possibilité d'apprendre à lire et à écrire parce qu'elles ne veulent pas mourir analphabètes. Il n'y a aucune notion de rentabilité économique là-dessus. C'est pour ça que je dis les jeunes et les moins jeunes, qu'ils aient la possibilité de faire du montage, s'ils le souhaitent, d'images, du montage de son, de création d'œuvres radiophoniques, etc. C'est-à-dire qu'on multiplie les ateliers d'écriture, très importants les ateliers d'écriture, parce que la réappropriation du langage, c'est le préalable à la réappropriation du politique. Je veux dire que c'est fondamental, les ateliers d'écriture. Des ateliers d'écriture pour faire des œuvres qui vont être filmées, pour faire des œuvres qui vont être jouées, peu importe. C'est-à-dire que tous ces ateliers de pratique sont ce qui peut renourrir une vie culturelle locale de proximité, qui met en mouvement les habitants d'un territoire donné, avec des participations d'équipes artistiques, et que ce qui se passe de façon micro-locale corresponde exactement à ce qu'on cherche à promouvoir sur Internet. Voilà, c'est un peu complexe. Hein, mais...
Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des...
Vous avez parlé beaucoup des majors, des grosses boîtes, des grosses maisons de disques. Est-ce qu'il en sera de même pour l'édition, les maisons d'édition bouquins? Parce que c'est vrai que j'ai l'impression quand même que Internet permet aussi de découvrir d'autres auteurs que ceux qu'on nous balance tout le temps sur les médias. Et puis, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais certainement, Patricia Cass, ce n'est pas quelqu'un que j'écoute et que j'aime profondément, mais j'ai entendu dire qu'elle avait quitté sa maison de disques et qu'elle produisait son disque elle-même sur Internet avec un prix défiant toute concurrence. Qu'en pensez-vous aussi?
Oui. Je réponds d'abord à la deuxième question. Elle est plus simple. De plus en plus... Alors là, c'est assez drôle, parce que c'est une artiste qui a été très connue et qui est dans une passe peut-être un petit peu plus difficile, mais qui aussi a réfléchi... Oui, c'est juste, vous avez raison. Oui, vous avez raison, parce que... Ils sont sensibles à la voix et à la qualité de la voix en Russie. Non, ce que je veux dire tout simplement, c'est qu'il y a aussi une vraie réflexion. Voilà quelqu'un qui a été pressurisé par des maisons de disques pendant toute une partie de sa vie et qui, à un moment donné, se dit, avec ce nouvel outil, on peut fonctionner différemment. Alors, c'est vrai de gens qui sont, de quelques personnes qui sont déjà très connues, mais c'est surtout vrai de plein d'artistes en développement qui font délibérément le choix de faire leur promotion directement par Internet. Donc, c'est un élément qu'on va voir se développer, c'est inéluctable. Je pense que les maisons de disques ont vraiment du souci à se faire, et d'ailleurs elles s'en font, Elles ont compris à quel point elles pouvaient encore gagner de l'argent sur les concerts en live, comme ils disent. Donc, elles rachètent. L'Olympia s'est fait racheter. Elles rachètent des salles de spectacle pour pouvoir gagner de l'argent sur les concerts. Mais bon, c'est vraiment des fonds de tiroir. Je pense qu'il y aura une difficulté structurelle qui va toucher ces majors à un moment donné ou à un autre. Ce qui est vrai dans la musique l'est dans une moindre mesure dans le cinéma, pour ce qui est du livre. Pour ce qui est du livre. C'est très facile de télécharger un livre sur Internet. De le télécharger, j'entends. Le lire, c'est autre chose. C'est-à-dire que là, il y a vraiment une histoire de confort. Moi, je crois qu'il sera long et difficile de remettre en cause le rapport au livre papier. Il existe aujourd'hui des petits supports qui ont été fabriqués par diverses entreprises, des petits supports numériques sur lesquels on peut charger plusieurs œuvres et on peut, comme ça, faire défiler ces œuvres et lire n'importe où dans le métro. Ce sont des espèces de feuillets un peu lourds qui sont assez facilement transportables. Ce n'est pas tellement cela qui est gênant. Mais le problème, c'est la luminosité. C'est-à-dire que ça fatigue les yeux. Ça va pour lire quelques articles, mais pour lire un livre dans la continuité, sincèrement, je pense que ce sera très difficile à obtenir. Alors, on ne peut pas dire ça dans la mesure où les techniciens, les chercheurs vont probablement essayer de trouver des moyens d'avoir une luminosité qui ne fatigue pas, etc. Mais apparemment, nous en sommes encore très loin. J'en ai vu, j'ai essayé les appareils dernier cri. Vraiment, on peut pas lire longtemps, quoi, franchement. Et puis le livre, quand même. Bon, alors, je parle, il y a le rapport sensuel, le livre, l'odeur, tout ça, je ne vous en parle pas. Mais on peut revenir, le toucher, mais voilà. Revenir en arrière, cocher, annoter, ce sera quand même plus difficile avec ces nouveaux supports. Donc, je pense que ça va se développer, la vente de livres par Internet, c'est déjà fait, mais je ne suis pas sûr que ça prendra l'ampleur que ça a pris dans le domaine de la musique.
Je voulais surtout là parler plus sur, parce que c'est vrai que l'objet livre, je pense qu'on aura du mal à s'en détacher, mais parler sur le fait de découvrir des auteurs qu'on ne peut pas découvrir autrement.
C'est ça.
Parce qu'on met toujours les mêmes en avant.
Mais bien sûr, parce qu'ils ne sont pas choisis par les maisons d'édition. Et en particulier, il existe des petites maisons d'édition qui se sont regroupées, j'en parle dans le livre, qui se sont regroupées pour promouvoir plusieurs maisons d'édition petites, pour promouvoir leurs livres de manière collégiale sur un site. Voilà. Comment ? Non, c'en est un autre, mais peu importe, il y en a plusieurs certainement. Donc, il va y avoir là un moyen d'aller à la découverte d'écrits, même d'écrits qui ne sont pas publiés, tout simplement, et qui peuvent avoir un intérêt. C'est-à-dire que aujourd'hui, qui publierait Beckett ? Je crois que le premier livre de Beckett a été publié à 300 exemplaires ou quelque chose comme ça. Enfin, il y a un chiffre que j'ai oublié, mais qui est dérisoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'aurait aucune chance, si vous voulez. Donc, Internet va permettre à des auteurs rares comme ça de pouvoir sortir et aussi à des œuvres historiques rares qu'on ne peut plus trouver qu'en bibliothèque, de pouvoir être consultées par tout le monde. Alors là, ça pose la question de la numérisation des livres dont s'est emparée la multinationale Google, qui a pris l'initiative, le lapsus est assez rigolo, vous allez jouer, a pris l'initiative, mais ils ne sont pas Google du tout, c'est ça le problème, a pris l'initiative de numériser les contenus de bibliothèques universitaires américaines, mais pas seulement, de bibliothèques universitaires aussi espagnoles, anglaises, etc., qui se sont laissées séduire, y compris une grande bibliothèque de Madrid, et que nous avons la chance d'avoir été très réactifs en France, puisque Jean-Noël Jeannonnet, que vous connaissez tous certainement, que j'ai eu comme professeur d'histoire à Sciences Po, qui est un type extrêmement passionnant, comme professeur aussi, et Jean-Noël Jeannonnet a lancé cette initiative, donc, qui au départ était une initiative française avec la Bibliothèque nationale de France, et qui est devenue une initiative européenne de numérisation des œuvres des principales bibliothèques européennes, de façon à ce qu'il y ait un concurrent à Google sur ce terrain-là. C'est un enjeu stratégique majeur, c'est clair.
Non ? Rien à dire ?
par rapport au livre, justement, je voudrais revenir, parce que la génération qui utilise Internet ne lit plus, de toute façon, donc ce n'est pas elle qui est concernée, puisque... Ah bah si, 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 enfin... Bah, pas vrai pour
alors,
tout le monde, mais c'est la plus... Si, parce que moi, c'est pas une invention de mon esprit,
non,
mais c'est une réalité, puisque la majorité des Français lisent, je crois même pas, 2 livres par an. Et donc, enfin, tous les jeunes autour de moi, hein, je dis pas tous, hein, en général, ils lisent quand même...
Alors, voilà, j'en ai discuté avec une personne qui réfléchit, qui connaît ça bien mieux que moi, la question de la lecture publique ou de la lecture tout court. La réponse à la question que vous avez posée et que je formulais aussi était la suivante. C'était de dire que il est vrai que la lecture de livres, en particulier de livres en prose, poésie, je ne parle même pas, mais autre chose que les bandes dessinées, les mangas, etc. La lecture de livres a baissé chez les jeunes générations, mais à partir d'un certain âge, parce que les tout jeunes, non. Ils ont beaucoup plus, les enfants, les petits-enfants ont beaucoup plus de livres que les générations précédentes. Alors, je crois que c'est à partir d'un certain âge, je ne sais plus lequel, qu'il y a une diminution quand on compare avec les générations précédentes. Bon, là, vous avez raison. En revanche, c'est la génération d'aujourd'hui, mais ce n'est pas forcément dû à Internet. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que ces générations-là, qui vont régulièrement sur Internet, sont bien obligées de lire sur Internet. Ils ne lisent pas forcément des livres. Mais ils lisent, quand ils vont à la recherche de documents pour un exposé, etc., ils vont être amenés à lire, moi je vois bien à la maison comment ça se passe aussi, je suis papa aussi, c'est-à-dire qu'ils vont être obligés d'aller lire des choses qu'ils n'auraient pas pris le temps forcément pour un exposé de faire en allant dans les bibliothèques, puisqu'il y aurait eu moins de choses à lire et à sélectionner. Après, ils peuvent télécharger, recopier directement, ça c'est autre chose. Je pense que, voilà, voilà, mais... En revanche, ils sont bien obligés quand même de lire pour voir si c'est à peu près dans le sujet sur lequel on leur a demandé de s'exprimer. Donc Internet fait quand même les adultes qui consultent leurs mails, qui reçoivent des textes accompagnés, etc., dans les mails qu'ils échangent, sont amenés à lire peut-être plus qu'auparavant. C'est-à-dire que c'est un... Alors, les contenus de ces lectures, je n'en préjuge pas, mais il y a au moins l'acte de lecture qui est fait sur Internet de texte. Il y a des gens qui ne lisaient plus rien et qui se sont mis à relire avec Internet. Donc, c'est très compliqué, tout ça. Hein. Je n'ai pas de réponse. C'est juste pour montrer que c'est compliqué.
Toujours pour parler des jeunes générations, ils sont très habitués à avoir une instantanéité dans la réponse, dans la consultation, dans la recherche d'informations, dans la réponse. D'un point de vue anthropologique, comme vous disiez tout à l'heure, il y a l'échange qui est beaucoup plus présent que ce que nous on a pu connaître. Qu'est-ce que vous pensez que ça peut avoir comme conséquence, ce rapport à la vitesse?
Oui, c'est une question profonde là, que vous amorcez, parce que je vais rester sur une question, je n'ai pas de réponse là-dessus. Je vois très bien ce que vous voulez dire, c'est-à-dire que on risque d'être sur une culture sur laquelle les gens surfent en permanence, avec des échanges d'idées, parfois pas toujours toutes faites, mais des rapides, formulées rapidement, où le temps de l'approfondissement n'est pas pris, et que je vois même, moi, vu le nombre de mails que j'ai à consulter par jour, c'est vrai que je les lis rapidement, et que c'est autant de temps que je n'ai pas pour me plonger dans une lecture approfondie. Voilà. Alors ça, c'est une vraie question. C'est-à-dire que là, il va falloir que dans l'organisation de nos vies, nous ayons bien en tête que ce nouveau moyen de communiquer est un moyen qui présente aussi des inconvénients sur le rapport au temps. Parce que c'est bien de cela qu'il s'agit. Prendre le temps d'approfondir, c'est de toute façon un rapport au temps. On en parlait dans la voiture, c'est toi qui me disais justement quand tu me parlais de ton écran. C'est vrai qu'entre le téléphone portable et les mails et les dossiers qu'il faut faire, etc., sur Internet, ça me prend un temps fou. Par moment, j'ai vraiment envie de tout envoyer balader et de prendre un bouquin, de me mettre dans un endroit où je ne regarde plus ces choses-là et je passe à autre chose. Ben, je pense que c'est un apprentissage à avoir et qu'il va falloir que chacun, après l'ivresse de la découverte, qui peut parfois durer longtemps, apprennent à gérer ce temps-là. Voilà. Je n'ai pas d'autre chose à dire, mais c'est de cet ordre-là.
Est-ce que vous pourriez nous donner votre email, s'il vous plaît?
C'est qui?
On vous pourrisse la vie.
D'accord, je ne voyais pas. En même temps, ça fait gagner un temps fou dans certaines circonstances. Donc voilà, c'est très complexe. Hein, oui.
Oui, dernièrement, sur France Culture, il y avait une émission, et il me semble que c'était le directeur de l'INA, l'Institut National des Archives, qui évoquait qu'ils étaient très inquiets vis-à-vis de la conservation sur ce type de support, sur les disques, sur et dans le temps, cette somme effectivement d'informations, et qui ne savaient pas d'une part comment les stocker, parce qu'il y avait une somme complètement phénoménale, et qui avait déjà des graves détériorations sur, avec le peu de recul qu'ils avaient sur une vingtaine d'années, sur un certain nombre de produits qui avaient été, enfin de produits d'infos, de livres, de CD qui étaient déjà dans des états assez détériorés. Est-ce que vous avez eu écho de ça?
Non, ce que je pourrais dire quand même, c'est que le support pellicule est un support qui se détériore physiquement. Il y a des films qui ont été récupérés parfois tardivement, qui sont des films du répertoire, qui étaient dans un état nécessitant des restaurations importantes. Hein. Donc, il y a une détérioration du support physique aussi. Et il y a, pour d'autres raisons, une détérioration du support numérique, c'est-à-dire que un enregistrement numérique se disparaît au bout d'un certain temps, que je ne connais pas précisément, mais bon, oui, c'est de l'ordre de ce que vous disiez. Donc, la seule solution dans ce cas-là, c'est de recharger sur un nouveau support régulièrement. Mais ce qui... Dupliquer, merci. Ce qui pose une question de capacité de stockage. C'est évident. Dans les conditions actuelles. En même temps, on a vu ces capacités de stockage se développer à une telle vitesse ces 20 dernières années qu'on peut supposer qu'elles continuent à se développer et que sa croissance la permette de dupliquer très régulièrement les œuvres et d'accroître même le patrimoine des œuvres ainsi conservées. Cependant, tout ceci étant dit, ça pose une autre question. C'est que si nous sommes entièrement dépendants d'Internet dans son organisation actuelle, j'y arrive dans un instant, pour conserver des œuvres du patrimoine comme cela, ça pose une question très grave. C'est que tout est centralisé en Californie. Tout le système sur lequel repose Internet, c'est une mise en correspondance entre les adresses IP et c'est-à-dire des chiffres, hein, des séries numériques, vous savez c'est ce que c'est une adresse IP, puisque vous les avez rentrées sur vos propres ordinateurs, et le nom de domaine que vous avez, que ce soit votre adresse.fr ou l'adresse d'un site.org, etc. Voilà, le nom de domaine correspond à une adresse IP. Tout ceci est centralisé à l'ICANN, qui est un organisme qui est placé sous la tutelle, en gros, du ministère du Commerce américain. C'est-à-dire que c'est géré directement par l'État américain. Si un jour, dans une situation de conflit ou de tension géostratégique de haut niveau, les États-Unis veulent utiliser un levier massu, ils déconnectent un pays entier. C'est techniquement possible. Il y a des parades, mais les parades... Bon, en tout cas, c'est un danger. Raison pour laquelle il commence à être demandé avec insistance dans les instances internationales, par les autres pays bien entendu, que cette architecture ne soit plus gérée par un État, fût-il le plus puissant du monde, mais de façon multilatérale, c'est-à-dire par une organisation internationale qui assure la supervision de cette clé de voûte d'Internet. Alors, il y a des pays comme l'Iran et la Chine qui demandent à ce que ce soit nationalisé. Pour cause, comme ça, ils pourraient contrôler leur truc. Évidemment, ce n'est pas recevable. Mais, en revanche, qu'on organise ça de façon multilatérale me paraît tout à fait normal, rationnel. Jusqu'à maintenant, dans toutes les négociations internationales qui se sont déroulées sur ce point, les États-Unis se sont refusés à faire évoluer le dossier. Voilà. Donc là, au-delà même de ce que vous disiez, où là des parades peuvent être trouvées par duplication successive, on a un problème là qui est d'ordre politique, géopolitique, et qui est loin d'être réglé.
Je voudrais soulever un autre problème. J'ose à peine, c'est l'orthographe. Et je ne parle pas de l'orthographe des enfants, je parle de l'orthographe en général, dans les messages, dans les annonces, dans les textes. Et ce n'est pas des coquilles, ce n'est pas des défauts d'imprimeur, c'est vraiment parce qu'on ne sait pas l'orthographe. Et c'est un drame.
De toute façon, il faut bien vous dire qu'orthographe, ça s'écrira. Attendez. F-E. Ça va venir dans 10 ans, le pH du pharmacien, ça va être
fini. Oui, il faut bien vous dire que d'ici 10 ans, le pharmacien s'écrira avec un F. Hein. Puis l'orthographe avec un F aussi. Hein. Le pH, hein, ça va aller quelque part hein, pour les enfants.
Puis tout le Écoutez, restant, moi, oui. Là c'est un autre sujet, si vous voulez. C'est un autre sujet. Je pense que les SMS font plus de mal à l'orthographe qu'Internet. Hein, puisque là, c'est de façon délibérée que des jeunes ou des moins jeunes, d'ailleurs je vois ça aujourd'hui, communiquent en mettant des Z à la place des S ou des, voilà, bon, des lettres à la place d'un phonème. Bon. Donc c'est un problème qui est plus large, si vous voulez. Moi, si je devais répondre à titre personnel, je fais toujours l'effort de respecter les règles d'orthographe, y compris dans les SMS. Mais je perds du temps, hein. Y en a qui se moquent de moi. C'est un problème qui dépasse la question d'Internet. Et ce que disait Madame est juste, c'est-à-dire que la question est posée déjà depuis longtemps sur l'évolution de l'orthographe. Voilà, je suis plutôt proche de vous, monsieur, c'est tout ce que je peux dire.
Alors, moi je voudrais intervenir par rapport au fait que dans le meilleur des cas, tout le monde serait, appareillé. C'est-à-dire tout le monde aurait un ordinateur, tout le monde aurait un abonnement. Mais moi, par exemple, je suis dans une association où il y a des gens qui n'ont pas Internet et c'est carrément la scission. Il y a vraiment, on sent qu'il y a les possédants d'Internet et les non... Non, mais attendez, c'est un problème d'isolement problème de communication.
Oui, c'est la fracture numérique que vous
évoquez. Voilà. Attendez, excusez-moi, c'est un peu comme avant, les gens qui savaient lire et balire. Bon, là, il y a un outil. Et je pense que politiquement, il faudrait aussi, si on veut, c'est mettre à disposition des gens qui n'ont pas les moyens de s'appareiller, de pouvoir le faire, ou des lieux où on pourrait...
Bien sûr. Non, c'est une vraie question, parce que elle existe, et si elle existe à l'intérieur de nos pays, elle est encore plus profonde entre le Nord et le Sud. Donc j'y reviens. À l'intérieur de nos pays, prenons un pays comme la France, par exemple, si on considère... je pense qu'on va peut-être pas durer trop longtemps maintenant, parce qu'on a envie de parler de façon plus informelle, donc je ne sais pas ce que tu en penses, Jean, mais...
Non, mais on fait comme on veut. Hein.
Ça fait déjà plus de deux heures.
Ce sont des conférences Linux.
Non, mais ce qui est bien, c'est qu'il y a des débats qui naissent ici et là, et je trouve ça très bien. Donc, à un moment donné, que ça devienne multipolaire, c'est plutôt bien. Donc, je réponds à votre question, madame, parce qu'elle elle peut se prolonger. À l'intérieur de pays comme les nôtres, si on considère que Internet devient un élément de socialisation fondamentale et d'intégration, ou tout du moins de participation à cette société, et de participation à la vie citoyenne, ne serait-ce que ça. Si on considère tout ça, ben il faut s'en donner les moyens, il faut avoir un plan informatique avec des crédits d'impôt en faveur des ménages les plus défavorisés pour qu'ils puissent acquérir un minimum d'équipement. Et comme vous le disiez, qu'il y ait des lieux collectifs qui soient bien équipés pour que les personnes... Ça existe déjà, mais ça peut se développer beaucoup. Je pense en particulier... Moi, je travaille en banlieue Est, donc sur des quartiers très populaires dans la ville où je suis. Tous ne sont pas populaires, mais il y en a. Et les maisons de quartier, les centres sociaux, etc., doivent être dotés d'un nombre de postes plus important que ceux qui existent aujourd'hui. Je crois qu'il y a vraiment un développement à opérer. Quant à Nord-Sud, question Nord-Sud, ça, c'est une question fondamentale. Parce que... c'est ambigu. Quand on dit il faut développer les infrastructures dans les pays du Sud, on pense traditionnellement infrastructures de transport, portuaires, etc. C'est très cher, très lourd. En revanche, s'il s'agissait simplement d'équiper en réseau Internet, en réseau d'accès à Internet, des territoires de pays pauvres, ce n'est pas très cher. dire, du fil de cuivre, c'est autre chose que des kilomètres de route, quoi. C'est beaucoup moins cher. Et je pense qu'il y aurait, et ça pourrait s'imaginer à l'échelle du PNUD, enfin à l'ONU, etc., je pense qu'il y aurait un plan de développement, de désenclavement pour des pays pauvres, enfin pour les pays du Sud, comme on dit habituellement, de façon générale, avec cet outil Internet, qui pourrait être beaucoup plus rapide à mettre en place et extrêmement efficace pour que, ne serait-ce que ça, des cultures complètement minoritaires et dominées puissent se raconter, puissent se dire, puissent être diffusées aussi par le net, au lieu qu'aujourd'hui, on les voit regarder Dallas et les séries habituelles venant des États-Unis, voir les novellas venant du Brésil, mais qui ne veulent pas forcément beaucoup mieux sur le fond. Donc, il y aurait peut-être un moyen de rééquilibrer la circulation des œuvres et d'entretenir la diversité culturelle à travers le monde en favorisant l'équipement de manière volontariste de pays qui aujourd'hui sont carrément sous-équipés. Ça suppose, en particulier, d'avoir des ordinateurs qui résistent à la chaleur. Ils existent. Je veux dire qu'ils sont techniquement prêts au point. Il y a des équipes de chercheurs qui les ont conçus. Ce qu'il y a, c'est qu'ils ne sont pas commercialisés parce qu'il n'y a pas de marché. Mais si on crée ce marché par une politique de développement et d'aide volontariste, c'est possible. Alors maintenant, vous avez tous les contre-arguments, mais attention, on va aller heurter ces cultures violemment si on les met en connexion trop rapide avec les cultures du Nord, etc. C'est très compliqué. Mais ce que disent aussi, pour être encore plus compliqué, ce que disent aussi les, je dirais, les tenants du libéralisme, ou les, c'est que les pays du Sud n'ont pas suffisamment d'universités et de lieux de formation de haut niveau. Les universités américaines privées ne demandent pas mieux que d'équiper très largement en réseau informatique les pays du Sud pour qu'ils puissent avoir des universités en ligne, mais contrôlées par les États-Unis. Donc vous voyez que c'est complexe, parce que à partir du moment où vous mettez en place des autoroutes de l'information, c'est ce que je dis dans le bouquin, hein, l'autoroute c'est impérial, hein, on le sait depuis Rome et les nazis. Donc c'est quelque chose qui peut être aussi retourné dans un sens extrêmement négatif. Donc ça demande à être pensé à une échelle internationale, multilatérale, dans des vraies politiques de développement auxquelles seraient associés les pays concernés. Voilà. C'est très compliqué, hein, parce qu'on n'y est pas. Et là, on touche à des choses qui ont beaucoup d'inconvénients derrière les avantages attendus.
Je voulais juste rappeler qu'il y a un réseau départemental de l'Internet territorial en fibre optique qui, pour l'instant, est vide de contenu. Voilà.
Vous pouvez en dire un tout petit peu plus ?
Moi, je pense que par rapport aux problèmes de gestion américaine des noms de domaine, des choses comme ça, bon, effectivement, il y a des parades techniques, hein, mais je constate aussi que le réseau départemental qui est en cours de déploiement sert essentiellement à de l'irrigation de type consommation, hein, et qu'on est loin d'être en mesure de s'organiser pour se mettre en termes de producteur de contenu, malgré le fait qu'il y ait un site sur la communauté de communes depuis des années, malgré le fait, etc.
Donc il faut multiplier les ateliers.
Voilà.
Il faut multiplier les ateliers de pratique pour que les gens aient un comportement intelligent, averti, sur cet outil formidable qui peut être un outil de développement social et de déploiement d'une énergie sociale à laquelle nous n'étions plus accoutumés. Voilà. Voilà. Non, c'était vraiment... J'ai pas grand chose de plus à vous dire en fait.